télé, radio et digital. Good Morning Business. Stéphane Pedrazzi.
Il est 6h59, bonjour à tous, très bon réveil, ravi de vous accueillir sur le plateau de Good Morning Business. À la une de l'actualité ce matin, les cours du pétrole qui sont désormais à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre en Ukraine. Le baril de Brent est retombé à 92$ sous l'effet de plusieurs facteurs, notamment du ralentissement de la croissance mondiale. Quelle perspective pour la rentrée, quelle perspective pour l'hiver prochain? Benjamin Louvet, spécialiste matières premières chez Ophi Asset Management, sera notre invité pour en parler tout à l'heure à 8h15. Conséquence de la crise énergétique, l'Allemagne renonce à sortir du nucléaire d'ici la fin de l'année. C'est une information du Wall Street Journal. Le pays aurait décidé de prolonger l'exploitation de 3 centrales. Est-ce un véritable revirement sur cette question extrêmement sensible du nucléaire outre-Rhin? On va y revenir évidemment dans nos différentes éditions. On vous racontera également les déboires des plateformes de streaming. Elles sont confrontées à l'infidélité de leurs clients. De plus en plus d'utilisateurs se désabonnent en fonction des différentes séries qui leur sont proposées. Comment est-ce que le secteur s'adapte? On en parlera en détail tout à l'heure dans le journal de 7h30. Vos invités ce matin, dans quelques minutes, à 7h15, on vous parlera du tourisme en montagne. C'est peut-être une réponse au réchauffement climatique. 48% de fréquentation cet été pour les communes de montagne. On en parlera avec Jean-Luc Bosch, président de France Montagne. Il sera avec nous sur ce plateau. Et puis à 7h45, on vous parlera de l'utilisation des drones dans le secteur professionnel. Cédric Botella, fondateur d'Instadrone, nous expliquera les utilisations très précises, mais aussi les contraintes en matière de réglementation. Il est tout juste 7h, le journal Claire Sergent. Bonjour Claire.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On commence avec ce revirement en Allemagne. Après plus de 10 ans après l'annonce de l'arrêt du nucléaire, je viens de le dire en titre, le prolongement de certaines centrales devrait être acté.
Ah oui, c'est selon le Wall Street Journal, Berlin, qui cherche donc des alternatives au gaz russe, s'apprête finalement à retarder la fermeture de ses centrales nucléaires. Delphine New.
C'est un virage à 180 degrés pour Berlin. Fin juin, le gouvernement allemand refusait encore de prolonger l'exploitation de ses 3 dernières centrales nucléaires, censées fermer d'ici à la fin de l'année. Mais voilà, l'Allemagne est au bord de la pénurie. Le responsable de la gestion des approvisionnements alertait dans le Financial Times du risque sérieux de crise énergétique cet hiver. Selon le Wall Street Journal, la décision doit encore être adoptée formellement par le gouvernement et approuvé par le Parlement. Les libéraux du FDP sont pour. Les Verts et les sociaux-démocrates du SPD, d'abord réticents, semblent donc prêts à revoir leur position pour permettre à l'Allemagne de s'émanciper plus rapidement du gaz russe, à condition que la prolongation des réacteurs soit bornée dans le temps. Ces 3 centrales n'assurent qu'environ 6% de la production d'électricité de l'Allemagne, mais leur prolongation permettrait de libérer autant de ressources gazières pour l'industrie et le chauffage des ménages.
Et en parallèle, les prix du pétrole n'en finissent pas de reculer.
Et oui, on est aujourd'hui au plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. La barre du Brent flirte aujourd'hui avec les 92$, alors qu'elle avait flirté avec les 140$ juste après le début du conflit. Forcément, ça se ressent à la pompe. Pour autant, il ne vaut mieux pas trop s'y habituer, Sofiane Aklouf.
Premier facteur de baisse, la crainte d'une récession mondiale qui joue sur la demande. Conséquence à la fois du conflit en Ukraine et des reconfinements en Chine. Des mesures sanitaires ont fait s'effondrer la consommation dans le pays. Cette baisse de la consommation intervient malgré les vacances qui incitent au déplacement et donc au passage à la pompe. De quoi présager d'une diminution de la demande à plus long terme. Deuxième facteur, les avancées sur le dossier du nucléaire iranien. La possible levée des sanctions permettrait d'apporter 1 million de barils supplémentaires sur le marché mondial. Pas sûr que cette tendance à la baisse se poursuive. D'abord, parce que de nouvelles sanctions sur le pétrole russe vont être appliquées d'ici à la fin de l'année. Un renforcement de l'embargo qui privera le marché d'1,5 million de barils par jour. La saison des ouragans risque également de compliquer l'équation avec la fermeture probable de plateformes pétrolières sur les côtes américaines. À plus long terme, la quantité d'or noir devrait donc se tarir plus rapidement que la consommation, avec à la clé une nouvelle hausse des cours.
Et on reviendra sur les cours du pétrole dans quelques instants avec Antoine Larigauderie. On va parler éducation. À quelques jours de la rentrée aux États-Unis, la prestigieuse université de Harvard va offrir un accès gratuit aux étudiants dont les revenus sont modestes.
Oui, 10% des étudiants seraient concernés, hein, c'est-à-dire 200 sur les 2000 inscrits chaque année. Ils seront exonérés des $76,000 de frais de scolarité. Harvard devrait être l'endroit des futurs leaders les plus talentueux, où ils peuvent venir ici réaliser leur potentiel. C'est ce qu'explique le doyen de l'université. Nous voulons donc lever les barrières financières qui les en empêchent et effacer le poids de la dette. Voilà ce qu'il dit. Il leur restera à prendre en charge le coût de la vie et de l'assurance, qui est tout de même estimé à $35,000 par an.
C'est l'une des conséquences de la sécheresse les plus inattendues. Elle concerne les crypto-monnaies et le minage en particulier.
Ouais, le minage de Bitcoin, une activité qui est très consommatrice en électricité, eh bien, elle est contrainte de s'adapter aux conditions climatiques extrêmes et aux conséquences sur le marché de l'énergie. En Norvège, un spécialiste du secteur a pris une mesure radicale. Simon Tenenbaum.
Face à la sécheresse, le minage de Bitcoin déménage au-delà du cercle polaire. CryptoVault, un spécialiste basé en Norvège, a ainsi décidé de déplacer ses opérations du sud au nord du pays. En effet, la Norvège est aussi frappée par la sécheresse qui sévit en Europe. Or, les barrages produisent 90% de son électricité domestique. Les prix sur le marché, déjà en tension à cause de la crise énergétique, ont flambé, sauf dans le nord, au-delà du cercle arctique, où les réserves en reste importante. CryptoVault, qui risquait de voir sa facture énergétique doubler cette année, n'avait pas le choix. L'électricité représente 80% de ses dépenses opérationnelles. Les pays scandinaves attirent depuis longtemps le minage grâce à leur électricité verte et bon marché, ainsi que leur climat qui limite les besoins en refroidissement. Mais la crise énergétique risque de changer la donne. La Suède, par exemple, troisième pays européen du secteur, réfléchit à prendre des mesures pour limiter le minage de crypto-monnaies sur son sol.
Est-ce une plaisanterie ou de la provocation? En tout cas, Elon Musk, le milliardaire américain, affirme vouloir acheter le club de foot anglais Manchester United.
Et c'est gratuit. Et c'est bien sûr Twitter qui l'a choisi pour le dire. Pour percevoir l'ironie du milliardaire, Elon Musk a d'abord écrit ce message sur le réseau social. Je soutiens la moitié gauche des républicains et la moitié droite des démocrates, qu'il a donc fait suivre de ce commentaire. Et j'achète Manchester United. De rien. Fin de la citation.
Et on vous en parlera dans quelques minutes avec Antoine Larigauderie. On est au croisement de deux de ses passions, Elon Musk et Manchester United. À tout de suite, Antoine. On termine avec le télétravail. On a l'impression, Claire, que dans la tech, les heures dorées du télétravail semblent révolues.
Ah bah en tout cas, chez Apple, c'est le temps du retour au bureau. Le géant américain a demandé à ses employés de revenir travailler au siège au moins 3 jours par semaine dès septembre. Virginie Cook.
À partir du 5 septembre, les employés du siège d'Apple devront obligatoirement venir au bureau le mardi, le jeudi et un troisième jour qui sera choisi par leur manager d'équipe. C'est un nouveau pas vers un retour à la normale. Jusqu'à présent, les salariés devaient être présents sur site seulement 2 jours par semaine. Cela fait déjà plus d'un an que les dirigeants d'Apple tentent de réduire le télétravail. Les réunions face à face font partie de l'ADN du géant américain. Mais ce n'est pas au goût de certains salariés qui se sont habitués au télétravail. D'autres entreprises de la tech ont la même politique qu'Apple. C'est le cas d'Alphabet, la maison mère de Google, qui a demandé à ses équipes de venir au bureau 3 fois par semaine pour favoriser les échanges entre salariés. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus flexibles, une façon de garder ou d'attirer les meilleurs talents. Selon le PDG d'Airbnb, les salariés les plus talentueux ne se trouvent plus à San Francisco. La plateforme autorise ses employés à travailler de n'importe où sur la planète 90 jours par an. Idem du côté de Facebook, Mark Zuckerberg encourage même le travail à distance et certains cadres du groupe ont par exemple décidé de vivre entre Londres et la Silicon Valley.
7h08, les marchés financiers. Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext. Antoine, lentement mais sûrement, le CAC remonte la pente. Pourquoi pas 6 séances de hausse d'affilée aujourd'hui? C'est la question.
Ben oui. Eh oui, chaque fois des 0,2, 0,3, 0,4%, mais on avance avec les 6600 comme objectif. On les a bien dépassés hier, pas tenu en clôture, mais peu importe, si on regarde la courbe sur le CAC 40 en une semaine, on a une vraie inflexion à la hausse et ça pourrait même continuer aujourd'hui avec des premiers signaux de marché ce matin qui nous donnent encore un CAC du côté 6620, 6630. Là, on a même une option sur un niveau technique qui nous ramènerait à fin avril. Et ça commence à devenir intéressant. Pas mal d'investisseurs qui sont en vacances en ce moment doivent commencer à regarder les courbes avec intérêt sur leur portable. Et c'est pas encore la rentrée boursière. Donc, on a de plus en plus affaire à ce qui ressemble à un rallye un petit peu construit, un petit peu cohérent, plus qu'une timide phase de reprise dans un marché baissier, un fameux bear market rallye. En tout cas, malgré une tendance très mitigée en clôture à Wall Street, on a poursuivi quand même à la hausse sur l'ensemble du marché hier. L'Asie est sérieusement bien orientée. Donc, le CAC, sur ses niveaux de fin avril, pour l'ouverture, franchement, pourquoi pas.
Cela dit, attention Antoine, on a quelques indicateurs importants à suivre sur l'agenda aujourd'hui.
Il va falloir être attentif. Il y a des indicateurs pour la zone euro à commencer à 11h avec la croissance du deuxième trimestre. C'est le chiffre révisé. On s'attend à du plus 4% sur un an. Ça reste quand même relativement robuste. Aux États-Unis, des indicateurs à suivre avec à 14h30 les ventes de détail pour le mois de juillet. On attend une progression à peu près 0,2% d'un mois sur l'autre. Et puis les stocks des entreprises pour le mois de juin qui sont attendus eux aussi en progression d'1,4%. Et puis le gros morceau du jour, ce sera bien après la clôture à Paris, ce sera à 20h du côté de Wall Street avec les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Il faudra être attentif là avec toutes les anticipations de relèvement de taux qu'on attend et qu'on espère préciser avec les propos des gouverneurs qui seront très clairement retranscrits.
Deux dossiers importants à suivre aujourd'hui, évidemment les cours du pétrole, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette matinée. Et puis la musquerie du jour, Claire nous en parlait, ça se passe dans le monde du football.
Oui. Ouais. Alors le pétrole, toujours regardé de près ce Brent qui continue à se diriger vers le palier des 90$. On perd 4% en 5 jours, 12% en un mois. Le WTI est déjà nettement en dessous des 90 d'ailleurs. Et puis oui, la musquerie du jour, Elon Musk qui avant de se coucher cette nuit décide de terminer une conversation sur Twitter en lâchant « Au fait, je rachète Manchester United ». Bon, nul ne sait si c'est une blague, façon « Oui, c'est ça et moi je suis la reine d'Angleterre », vous voyez. Il s'agit vraiment de quelque chose sur lequel on peut se poser des questions. Est-ce que c'est sérieux ou pas? Manchester United, c'est quand même une société cotée à la Bourse de Londres et sur les marchés américains. Alors, si c'est une blague, ça risque de pas faire rire du tout les autorités boursières, surtout qu'Elon Musk est en conflit ouvert avec eux sur plusieurs dossiers à ce niveau-là. Donc, on verra bien aussi s'il y a un impact sur Tesla et sur Twitter, qui reste un dossier en cours important dans la galaxie Musk en ce moment.
Pensez que ça a fait rire les supporters de Manchester?
Au moins, ça fera rire les supporters, c'est sûr. Attention, les rumeurs de vente du club, ça fait plusieurs années qu'on en parle, et ça pourrait alimenter de nouvelles spéculations, effectivement, là-dessus.
Merci beaucoup Antoine, on se retrouve juste après le journal de 7h30. On va rester dans le sport justement, puisqu'on est à moins de 2 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et tout au long de la semaine, Good Morning Business vous propose une série de reportages sur l'organisation de cet événement. Parmi les principaux défis, le recrutement de plusieurs dizaines de milliers de personnes, notamment dans le secteur de la sécurité. Reportage Léo Dumas.
Nous voici au siège de l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Ici, déjà 800 salariés travaillent à la préparation de l'événement, mais le plus gros de la main-d'œuvre n'a pas encore été recruté. Il s'agit des volontaires. Un vrai défi pour l'organisation qui en attend 45 000.
Une gigantesque campagne de recrutement est à venir. Début 2023, l'organisation des Jeux Olympiques ouvrira le portail de recrutement des volontaires pour un processus qui durera 9 mois. Et ce n'est qu'après l'été, à un an des Jeux, que les candidats sélectionnés seront informés. Un programme ouvert à tous, deux conditions seulement, avoir 18 ans au 1er janvier 2024 et être motivé, nous dit Alexandre Morénon-Condé, directeur du programme des volontaires.
Les volontaires sont le visage des Jeux. Ils vont être les premières personnes que les athlètes vont rencontrer, les premières personnes que les spectateurs vont rencontrer. Ils sont aussi l'âme des Jeux, c'est eux qui vont contribuer à créer l'atmosphère des Jeux avec les sites, avec les athlètes. Ils sont le troisième élément de l'identité des Jeux. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui sont motivés.
Alors que les Jeux se déroulent en plein été et que les pénuries de main-d'œuvre se multiplient, comment convaincre 45 000 personnes de s'engager pour plusieurs semaines de bénévolat? L'expérience au cœur du plus grand événement sportif du monde est si prometteuse que le directeur du programme est confiant.
Notre ambition, c'est d'offrir la meilleure expérience possible aux volontaires qui vont rejoindre le programme. On veut qu'ils aient des missions qui leur plaisent. On va avoir en plus de ça l'occasion de faire plein de rencontres, de développer des compétences, d'avoir la fierté d'accueillir le monde autour de nous.
L'organisation reçoit des candidatures tous les jours et avant même que la campagne ne commence, les collectivités locales comme la Seine-Saint-Denis cherchent déjà leurs candidats. Ce département a ouvert son propre programme. Objectif, présenter 2500 profils à Paris 2024. Amandine Renaud, la chef de projet du programme Toutes et tous volontaires de la Seine-Saint-Denis.
On a trois publics cibles pour ce programme-là. Les jeunes de 16 à 30 ans. La deuxième public cible, sans condition d'âge, des personnes issues du mouvement sportif et sans condition d'âge, des personnes en situation de handicap. Les jeunes et les futurs volontaires vont pouvoir passer des formations gratuitement offertes par le conseil départemental dans le cadre de ce programme-là. Et ils vont pouvoir être, comme aujourd'hui, candidats pour pouvoir être bénévoles et s'initier déjà aux grands événements sportifs.
Paris 2024 prévoit aussi des sessions de formation pour les volontaires recrutés. Ils seront mobilisables dans ce cadre dès le premier trimestre 2024, avant que certains ne soient mobilisés en amont des Jeux, dès l'ouverture du village des athlètes.
Et donc c'est un reportage signé Léo Dumas. On va parler des vacances à la montagne tout de suite.
Télé, radio et digital. Good morning business.
Passer ses vacances d'été à la montagne. Cet été, le taux d'occupation dans les communes de montagne a dépassé les 50%. 54% estimé aujourd'hui. On est au-dessus du niveau de l'an dernier et on va en parler avec Jean-Luc Bock. Bonjour.
Bonjour.
Président de France Montagne, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne et vous êtes également maire de La Plagne. Dans quelle mesure est-ce que le réchauffement climatique, avec les effets très visibles cet été, a poussé les vacanciers à choisir la montagne comme destination?
Alors, il faut dire dans un premier temps qu'ils avaient déjà commencé à pré-réserver leurs vacances, mais on s'est rendu compte entre le mois de juillet et le mois d'août qu'il y a une forte demande et que les gens sont venus. Les vacanciers sont venus, ils sont là, ils sont présents et on est en train de battre un record historique qui était 2021, l'été 2021. Et là, on est légèrement supérieur en taux de fréquentation.
Vous l'avez dit, beaucoup de touristes avaient déjà choisi leur destination de vacances avant les vagues de chaleur. Est-ce que vous vous attendez à un effet sur l'année prochaine? Touristes qui se disent « on a vraiment trop souffert de la chaleur cette année, l'an prochain ça sera à la montagne ».
Il faut juste l'espérer. On a un avantage par rapport à d'autres, c'est que chez nous, la climatisation, elle est naturelle. Quand vous passez les 2000 mètres d'altitude, automatiquement, vous avez une baisse de température. Et cette baisse de température vous permet de mieux dormir, vous permet de mieux en profiter, de mieux marcher et de faire tous les sports que vous avez envie. Parce que la montagne, elle est très, très diversifiée, surtout en été.
Les Français sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales. Est-ce que la montagne, c'est une réponse à cette aspiration à être plus proche de la nature?
Alors la montagne est en train de muter, est en train de bouger, d'évoluer. Et la montagne, c'est le territoire où on est par excellence conscient de la difficulté, du réchauffement, du changement climatique. Et on fait tout pour mettre en œuvre ce qui demain sera utilisé ailleurs sur le territoire. On va parler d'une chose qui fait très souvent polémique, les retenues collinaires. Mais les retenues collinaires, cette année, elles ont permis quoi? Elles ont permis d'alimenter le bétail en altitude parce qu'on avait un problème hydrique. Elles ont permis d'éviter des feux de forêt intenses, puisque les hélicoptères, quand on a eu ces quelques feux sur certains massifs, ont pu puiser l'eau dans les retenues collinaires et éteindre très rapidement les incendies.
Quel est le profil aujourd'hui des touristes qui vont en été à la montagne? Je vais faire un raccourci, mais on dit souvent ce sont les personnes âgées et les Hollandais.
Alors là, c'est un vrai raccourci, mais c'est un raccourci qui n'est pas réel, puisque aujourd'hui, la principale clientèle de la montagne française, c'est d'abord les Français. Ils viennent en proximité. Et il faut jamais oublier que quand vous prenez votre voiture, quoi qu'il arrive, vous serez toujours moins polluant que prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde.
Je vais vous poser la question différemment. Pendant la période estivale, on sait que beaucoup de jeunes choisissent le littoral, notamment pour, évidemment, la fête. Est-ce que les destinations de montagne cherchent à s'adapter pour attirer les jeunes, ou est-ce que vous vous dites, c'est pas forcément la bonne stratégie?
Alors, c'est peut-être pas la bonne stratégie, mais en tout cas, on a les infrastructures, puisqu'elles ont été créées, constituées principalement à l'origine pour l'activité montagne l'hiver. Et donc, ayant les infrastructures, on a la possibilité de faire plein de choses, plein d'animations, plein d'événements. D'ailleurs, certaines stations ne s'en privent pas. Simplement, nous ne sommes pas un parc d'attractions et à un moment donné, il faudra quand même repenser la montagne différemment, mais avec tous ses atouts.
D'autant que le tourisme est une activité polluante. Comment est-ce que vous vous protégez contre la pollution liée au tourisme ?
Alors, on est en train de passer et de partout à l'électrique. Évidemment, des remontées mécaniques, d'abord, ça consomme quoi ? De l'énergie électrique. Donc, c'est pas polluant. Les dameuses, qui faisaient polémique il y a un certain temps, vont passer en électrique ou à hydrogène. Donc, on est en avance sur beaucoup d'autres territoires à la montagne. Et protéger notre environnement, c'est la base de tout ce qu'on l'on souhaite.
54% de taux d'occupation estimé pour la période estivale, c'est plus que l'an dernier. On sait que la montagne, évidemment, n'a pas le même potentiel en été qu'en hiver. Quel serait, selon vous, l'objectif réaliste pour l'été ?
On va dire que quand on atteindra un taux de 60-65% d'occupation, on aura fait quelque chose d'exceptionnel. L'avantage aussi, on a de très grands espaces, contrairement au littoral qui est un petit peu plus contraint puisque les plages ne sont pas extensibles à volonté, et fort heureusement d'ailleurs. Mais en montagne, on a cette capacité, cette possibilité de réserver des espaces à toutes les personnes qui le souhaitent. Vous voulez vivre avec plein de monde autour de vous, c'est possible. Vous voulez être seul au monde, vous pouvez en profiter.
Vous trouvez des saisonniers pour l'été facilement ?
Alors ça devient compliqué comme partout au niveau national. On se rend compte que petit à petit, on a une difficulté à recruter. Et ça, quel que soit le métier, quelle que soit la localisation, mais on fait tout pour les attirer. Le logement est un des vecteurs importants. Il faut loger les saisonniers, c'est évident. Il faut les rémunérer correctement. On est, nous aussi, en train de vivre notre mutation.
Je suis très heureux de vous avoir en plateau ce matin. On a beaucoup parlé des effets du réchauffement climatique. On a beaucoup médiatisé les incendies. On a moins parlé de la fonte des glaciers. La situation est extrêmement préoccupante en montagne. Et j'imagine que vous aussi, vous êtes inquiet de cette évolution.
Alors, évidemment, ne pas être inquiet, ce serait être irresponsable. Et les élus de montagne, évidemment, sont préoccupés par cela. Mais que peut-on faire par rapport à ce qui est en train de se passer à ce niveau-là ? On fait tout, comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour être le plus vertueux possible et décarboner notre destination. Mais à un moment donné, le réchauffement est présent. Et cet été, on a vécu des vagues de chaleur assez exceptionnelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par contre, la matière première, l'eau, quand elle tombe en abondance et sur une période très courte. Donc il va falloir apprendre à la stocker, à l'utiliser différemment et à la distribuer au niveau national pour que personne ne puisse avoir un manque d'eau, ce qui est vital à la vie.
Vous pensez que les stations de montagne, à terme, ne pourront plus proposer d'activités de ski ? On a vu que les stations de basse montagne ont déjà renoncé, pour certaines, au ski en hiver. Est-ce que dans 20 ou 30 ans, on pourra encore skier dans les Alpes ?
Alors la réponse est catégoriquement oui. Tous les scientifiques qui se sont penchés sur le modèle économique se sont rendus compte que dans 50 ans, on aura toujours cette capacité, il y aura toujours de la neige en hiver. La différence, et c'est là où il faut bien faire la nuance, c'est que vous avez des précipitations qui vont être de plus en plus intenses. C'est valable pour l'eau, c'est valable pour la neige aussi.
Et ça rejoint ce que vous nous expliquiez sur la gestion des ressources en eau et savoir stocker l'eau. Merci beaucoup Jean-Luc Bock d'être venu en plateau ce matin, maire de La Plagne, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne et président de France Montagne. On marque une pause à suivre. Le monde qui bouge, ce sera avec Benaoud Abdedaïm.
Good morning business, le monde qui bouge.
Benaoud Abdedaïm nous a rejoint en plateau. Bonjour.
Bonjour.
Le chef de l'État chinois pourrait, dans les jours qui viennent, se rendre en Arabie Saoudite. Dans quelles conditions et surtout, avec quels objectifs ?
Alors, il faut voir que cela fera bientôt 3 ans que Xi Jinping ne sort plus de son pays. C'est dire la portée politique du choix de son premier voyage à l'étranger. Pour l'heure, rien ne filtre dans les médias étatiques chinois, mais sur les réseaux sociaux, des commentateurs se raccrochent à différentes indications, notamment certaines images supposées montrer les préparatifs d'un accueil grandiose, en tout cas bien plus enthousiaste que celui réservé le mois dernier au président des États-Unis. Après Riyad, le chef de l'État chinois se rendrait dans la grande ville portuaire de Jeddah et à Neom. Neom, c'est le projet de métropole futuriste dans le nord-ouest, cher au prince héritier Mohamed Ben Salman. D'après les sources saoudiennes anonymes jusqu'ici citées, il sera procédé à la conclusion d'une série d'accords économiques et scientifiques allant de l'énergie à l'agroalimentaire. Pékin ne confirme toujours pas ce déplacement, mais ne le dément pas non plus. Interrogé par une chaîne chinoise basée à Dubaï sur les relations avec l'Arabie Saoudite, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a seulement déclaré que les deux pays sont des partenaires stratégiques globaux, mais il a ajouté « Nous sommes prêts à travailler ensemble pour continuer à cimenter la confiance mutuelle et à approfondir la coopération ». On peut en déduire qu'il s'agit maintenant d'aller au-delà du cadre mis en place en 2016 qui a conduit à ce que la Chine devienne 5 ans plus tard le plus important partenaire commercial des Saoudiens. Il y a 2 mois, en marge d'un forum à Singapour, les deux ministères de la Défense ont passé en revue les dossiers d'intérêt commun, selon la formule employée par l'agence de presse officielle saoudienne. Cela pourrait donc déboucher sur des liens militaires renforcés et alors la relation prendrait une toute autre dimension.
Dans quelle mesure est-ce que cette visite est susceptible d'altérer le pacte entre les Américains et les Saoudiens ?
De façon considérable. Washington tente de réaffirmer pour le moment sa place. Un diplomate américain de haut rang qualifie ainsi les États-Unis de partenaire vital pour l'Arabie Saoudite. Comprendre donc que quoi qu'il se passe ces temps-ci avec Pékin, le Royaume ne saurait se passer de son protecteur historique. Un ancien responsable des dossiers moyen-orientaux sous la présidence Bush-fils considère dans cette même logique que si les Saoudiens achètent des armements aux Chinois, notamment des drones, cela doit être vu comme un moyen de se créer un effet de levier sur les États-Unis et non une volonté de s'éloigner des Américains. En attendant de pouvoir analyser la consistance exacte de cette éventuelle visite, on peut relever combien l'État chinois apprécie la façon dont Riyad se démarque de Washington en ce moment sur la question de Taïwan. La semaine dernière, le nouvel ambassadeur saoudien à Pékin, reçu au ministère chinois des Affaires étrangères, a réaffirmé le soutien de l'Arabie saoudite au principe d'une seule Chine, donc englobant Taïwan, au nom, dit-il, du refus de son pays de s'ingérer dans les affaires intérieures des États souverains. Riyad veille par ailleurs à ne jamais aller à l'encontre de ce que fait la Chine dans la région du Xinjiang vis-à-vis de la minorité musulmane ouïghour. L'ambassadeur saoudien, cité par un quotidien officiel chinois, parle même de réalisations remarquables dans ce territoire. Il faut voir, comme l'écrit un média irakien proche de l'Iran, que Pékin n'a pour sa part jamais commenté publiquement l'opération militaire saoudienne au Yémen, l'imposition d'un blocus au Qatar ou bien encore l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Mais l'éventuel déplacement du président Xi Jinping aurait également un aspect de stricte politique intérieure chinoise et il est fondamental. Entreprendre un voyage à l'étranger en ce moment d'une telle importance stratégique peu avant le congrès du Parti communiste servait aussi à démontrer toute la confiance du chef de l'État chinois en son ascendant politique sur son pays et sur son parti.
Merci beaucoup Benaouda Abdedaïm. Il est tout juste 7h30. Un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent. L'Inflation Reduction Act, le vaste plan d'investissement pour le climat et la santé, vient d'être ratifié aux États-Unis.
Et Joe Biden doit le promulguer ce soir à la Maison-Blanche. Le texte prévoit des incitations financières pour diriger l'économie américaine vers le renouvelable avec une enveloppe de 430 milliards de dollars. Bonjour Laura Cambeau. Surtout, cette loi instaure un impôt minimal de 15% pour lutter contre l'optimisation fiscale abusive.
Oui, Claire, et c'est donc la fin des exemptions fiscales pour les grands groupes américains. Toute entreprise qui réalise un résultat comptable supérieur à 1 milliard de dollars devra payer un impôt minimum de 15%, vous le disiez. Il y aura seulement quelques déductions et crédits d'impôt pour des impôts qui ont déjà été payés à l'étranger, des dépenses pour la recherche et le développement et des investissements en capital. L'objectif de la Maison-Blanche, c'est de créer une arme anti-optimisation fiscale. Vous l'avez compris, il y a 470 groupes dont le résultat est supérieur à 1 milliard de dollars et sur ces 470 groupes, environ 150 ont acquitté un taux inférieur à ces 15% l'année dernière. Par exemple, des géants comme General Motors, Nike, Apple, Amazon ou encore Exxon. Avec cette mesure, le gouvernement espère récupérer 35 milliards de dollars dès l'an prochain et 222 milliards de dollars sur les 10 années à venir. Petite précision, il s'agit s'agit d'un impôt national. Il est donc bien différent de l'impôt minimum mondial approuvé sous l'égide de l'OCDE, qui, lui, n'est pas intégré au plan anti-inflation. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, assure tout de même qu'il y aura des incitations au fil du temps pour adopter cet impôt mondial.
Toujours aux États-Unis, le secteur de la consommation se porte bien et il a dopé les marchés américains hier.
Oui, Walmart, le numéro 1 américain des supermarchés, a rassuré les marchés hier, trois semaines après son avertissement sur résultats. Et la chaîne de bricolage Home Depot a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Sofiane Aklouf.
Certes, les bénéfices de Walmart vont bien baisser cette année à cause de l'inflation, mais les supermarchés américains vont limiter la casse. Le groupe anticipe une croissance de l'ordre de 4,5% de ses ventes cette année, grâce aux promotions réalisées dans les magasins, explique le spécialiste en investissement John Plassard.
Ils ont un niveau de stock qui est énorme, notamment à cause de tout ce qu'ils avaient commandé avant la fin de l'année, en pensant que la demande allait revenir et qu'on n'allait pas avoir des anticipations de récession. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des énormes promotions. Et notamment, le CEO de Walmart a dit qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient en magasin, ce qui n'était plus autant le cas avant, parce que les gens réservaient sur Internet. Et on voit que les gens viennent chercher les promotions chez Walmart.
La chaîne de bricolage Home Depot fait mieux que prévu, malgré le ralentissement du marché américain. Le bénéfice bondit de 7% à 5 milliards de dollars. De bons chiffres qui s'expliquent par une hausse des prix. Des résultats salués en bourse par les investisseurs, mais la prudence reste de mise en raison de la flambée de l'inflation et du contexte géopolitique.
Et toujours aux États-Unis, la prestigieuse université de Harvard va offrir un accès gratuit aux étudiants qui ont des revenus modestes.
Selon le Financial Times, 10% des étudiants sont concernés, c'est-à-dire 200 sur les 2000 inscrits chaque année. Ils seront exonérés des 76 000 dollars de frais de scolarité. Harvard devrait être l'endroit où les futurs leaders les plus talentueux peuvent venir ici réaliser leur potentiel. C'est ce qu'explique le doyen de l'université. Nous voulons donc lever les barrières financières qui les en empêchent et effacer le poids de la dette, ajoute-t-il. Il leur restera à prendre en charge le coût de la vie et de l'assurance, qui représente quand même 35 000 dollars par an.
Nous sommes tous un petit peu infidèles quand il s'agit de consommation, et a priori, et a fortiori, pardon, dans le streaming.
Oui, nous avons tendance à jongler entre les plateformes, à nous désabonner dès que notre série préférée est terminée. Un phénomène de plus en plus marqué qui inquiète les géants de la vidéo comme Netflix ou Disney+, et qui pose la question de l'avenir de leur business model. Simon Tenenbaum.
Les clients des plateformes de vidéos sont de plus en plus versatiles. Aux États-Unis, le taux moyen de désabonnement a atteint un record en juillet. Seuls 55% des Américains qui s'étaient abonnés à Netflix en janvier l'étaient encore cet été. En France, le nombre moyen d'abonnements par foyer stagne depuis un an. Alors que l'inflation pousse les consommateurs à faire des choix, beaucoup de téléspectateurs décident de résilier dès qu'ils ont regardé la série ou le film qui les intéressait. Ils sont nombreux à jongler entre les plateformes. 19% des consommateurs de vidéos à la demande ont résilié au moins 3 offres ces 2 dernières années. Face à l'abondance de choix, même les clients anciens, jusque-là fidèles, n'hésitent plus à aller voir la concurrence. Voilà pourquoi Netflix en particulier connaît en ce moment une crise de croissance. Si les plateformes cherchent des parades, par exemple en étalant sur plusieurs semaines la diffusion des séries, elles sont surtout poussées à dépenser toujours plus pour retenir leurs clients, ce qui risque de peser pour longtemps sur leur rentabilité.
Plaisanterie ou provocation, le milliardaire américain Elon Musk affirme vouloir acheter le club de foot anglais Manchester United.
Et c'est bien Twitter qu'il a choisi pour le dire. Pour percevoir l'ironie du milliardaire, je vous refais le fil de l'histoire. Il a d'abord écrit ce message sur le réseau social. Je soutiens la moitié gauche des républicains et la moitié droite des démocrates. Et il a donc fait suivre ce commentaire. Et j'achète Manchester United de rien. Refermez les guillemets.
Et Antoine Larigauderie nous le disait tout à l'heure, Manchester United, c'est un club coté en bourse, et c'est une déclaration qui risque de ne pas faire rire beaucoup les régulateurs financiers. On va vous raconter une autre histoire, celle de WeWork, le spécialiste des bureaux partagés. C'est le grand retour aux affaires pour le fondateur ultra controversé de l'entreprise.
Oui, Adam Neumann est en train de créer une nouvelle entreprise, toujours dans le secteur de l'immobilier. Alors les contours sont encore flous, mais il a déjà levé 1 milliard de dollars. Marie Cœur de Roy.
Après WeWork, Adam Neumann est-il en train de créer une nouvelle bulle dans le monde de la PropTech ? Un fonds d'investissement américain vient de miser 350 millions de dollars sur sa nouvelle entreprise, faisant d'elle une nouvelle licorne de l'immobilier. Une entreprise dont on ne sait pourtant presque rien. Elle a un nom, Flo, une date de lancement, 2023, et un champ d'action, le résidentiel. Mais pour le reste, le mystère reste entier. S'agira-t-il d'accès à la propriété, d'un service de location ? La presse américaine a en tout cas découvert qu'Adam Neumann avait déjà acheté 3000 logements dans 4 grandes villes américaines, dont Miami. Mais elle s'interroge. Certains dans la Silicon Valley ironisent et se demandent même s'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague après la chute vertigineuse de WeWork. Business model douteux, management scandaleux, départ forcé pour Adam Neumann. La valorisation de l'entreprise est passée de près de 50 milliards de dollars en 2019 à 4 milliards de capitalisation boursière aujourd'hui.
Encourager les familles à avoir davantage d'enfants, ça se passe en Chine. La natalité est toujours au plus bas et le gouvernement dégaine de nouvelles mesures.
Oui, depuis des années, les autorités tentent de résoudre la crise démographique qui frappe le pays. En 2016, Pékin a mis fin à sa politique de l'enfant unique. Mais si rien n'est fait, la population chinoise devrait diminuer dès 2025. À Pékin, le correspondant de BFM Business, Sébastien Lebelzik.
Oui, pour relancer la natalité, la Chine sort donc le carnet de chèques avec une batterie de mesures annoncées ici, des subventions, des déductions fiscales et de meilleures assurances santé, ainsi que des aides dans l'éducation, le logement et l'emploi destinés aux familles. C'est ce que préconise en tout cas le ministère de la Santé qui estime que de nombreux services, notamment les garderies, sont insuffisants en Chine. Chaque province devra donc s'assurer désormais de disposer d'assez de crèches d'ici la fin de l'année pour les enfants de 2 à 3 ans. Certaines villes les plus riches ont déjà mis en place des crédits immobiliers, des avantages fiscaux, des aides à l'enseignement et même des subventions pour encourager les femmes à avoir plus d'enfants. Cette politique pourrait être désormais étendue à l'ensemble du territoire avec un système en fait d'allocation familiale sur le modèle français. Est-ce que cela sera suffisant pour relancer la natalité ? Pas sûr. Après 35 ans de politique de l'enfant unique, la Chine veut encourager les femmes à avoir 2, voire 3 enfants, mais sans succès jusque-là, en raison notamment du coût de la vie, du coût de l'éducation et d'infrastructures insuffisantes pour la petite enfance, sans compter la baisse du nombre de mariages en Chine, du jamais vu depuis 40 ans.
Voilà, on vous donnera des nouvelles de la natalité en Chine. Merci Claire. Il est 7h39, on va parler crypto-monnaie.
BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
Le monsieur crypto en direct du siège d'Euronext, c'est Antoine Larigauderie. Antoine, d'abord un mot sur la tendance. On a quand même l'impression que c'est un petit peu laborieux en ce moment sur le Bitcoin. Après la progression d'il y a quelques jours, on peut pas dire que ça se passe très bien.
Oui, on a du mal à aller plus haut que les 24 000 dollars. On sent un phénomène de plafonnement entre 24 et 25. Pareil pour l'Ether, d'ailleurs, qui a du mal à rallier ses derniers plus hauts à 2 000 dollars. Alors qu'il y a du mieux sur les plus petites cryptos, le Litecoin, le Bitcoin Cash et Ripple, surtout, qui signent de bonnes performances ces dernières heures.
Et justement, on a surtout l'impression que les investisseurs s'intéressent à ces cryptos, on va dire, un petit peu exotiques, notamment le Dogecoin.
Mais oui, les monnaies à tête de chien, on va dire. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé un temps de ce qu'on appelait les meme stocks sur le marché actions à Wall Street. Les valeurs tombaient si bas qu'elles devenaient un peu les jouets des communautés de traders sur les réseaux sociaux, les GameStop, Bed Bath & Beyond, etc. Eh bien, figurez-vous qu'elles reprennent de la vigueur en ce moment à Wall Street et qu'elles ont tendance à nettement surperformer un marché qui reste un peu hésitant. Eh bien, même chose sur les cryptos. On met un peu de côté Bitcoin et Ether sur lesquels la volatilité est beaucoup retombée ces derniers temps pour aller regarder ces cryptos-là. Regardez sur les 5 derniers jours, le Bitcoin fait plus 0,6%, l'Ether plus 3%, mais le Dogecoin, la célèbre crypto qu'Elon Musk voulait utiliser pour financer des voyages lunaires, plus 20,6%. Et le Shiba Inu, une autre crypto à tête de chien du même genre, fait plus 30%. Les analystes estiment qu'on commence à avoir une certaine forme de diversification de portefeuille chez les investisseurs crypto qui n'hésitent pas à se positionner sur le Bitcoin et l'Ether pour avoir du solide, du sûr, et quelques paris un petit peu exotiques à côté pour profiter de dynamiques plus fortes. Mais bon, attention, on parle là de crypto qui ne valent même pas un cent pièce. Donc ça reste vraiment à manier avec d'infinies précautions. Elles bénéficient du sillage positif de ce qui se passe sur les grandes cryptos, de l'optimisme général du marché, de l'évolution à venir de la blockchain Ethereum. Mais prudence, le soufflet peut retomber assez vite. Et en cas de retournement ou de doute sur les marchés, ce seront les premiers actifs à souffrir d'un mouvement de flight to quality, mais alors puissance 10, 100 ou 1000.
Merci Antoine. Vous avez vu, j'imagine, que les mineurs de crypto passent le cercle polaire. Ils vont s'installer au nord où il fait plus froid pour consommer moins d'énergie. On vous racontera l'histoire tout à l'heure dans le journal de 8h. Ce sera avec Claire Sergent et Antoine. On vous retrouve juste après justement le journal de 8h. Une question à présent. Est-ce que tous les salariés d'une entreprise peuvent bénéficier des tickets resto ou est-ce que c'est réservé à certains types de contrats? Écoutez les réponses. La réponse de Thomas Schnell.
Good Morning Business, BFM Business avec vous.
Un auditeur se pose une question ce matin sur BFM Business. Il ne bénéficie pas des tickets restaurants parce que son employeur estime qu'il ne travaille que 2 mois dans l'entreprise alors que tous les autres salariés, eux, en CDI, bénéficient bien de ces tickets restaurants. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien d'abord, il faut savoir que tous les salariés, à partir du moment où ils ont un repas pendant leur heure de travail, ils ont le droit à ces titres restaurants et les salariés en CDD n'en sont pas privés puisque les dispositions des CDD, qu'elles résultent des dispositions légales, conventionnelles ou d'usage, doivent être identiques à ceux des contrats à durée indéterminée. Il s'agit donc de l'application du principe d'égalité. Les CDD ont droit à tous les avantages, les prestations du CSE, les tickets restaurants, l'intéressement, le paiement des jours fériés. Ce manquement au principe d'égalité de l'employeur pourrait être sanctionné par le rappel de la somme dont le salarié a été privé et il pourra à l'avenir bénéficier bien sûr de cet avantage.
Les drones de plus en plus utilisés par les entreprises pour des missions d'inspection, de surveillance et de sécurité, on en parle juste après la pause avec Cédric Botella, fondateur de InstaDrone. À tout de suite.
En télé, radio et digital, Good Morning Business.
Le marché des drones de loisirs est en train de ralentir après des années de forte croissance. En revanche, le marché des professionnels, lui, est en pleine expansion. De plus en plus d'entreprises ont recours à des drones pour des missions d'inspection, de surveillance, de sécurité. La liste n'est pas exhaustive. On va en parler avec Cédric Botella, fondateur d'InstaDrone. Bonjour.
Bonjour.
Désolé, j'avais hispanisé votre nom juste avant la pause. Quelles sont les principales utilisations aujourd'hui des drones en entreprise?
Alors, dans notre cas, InstaDrone, qui est une société de prestation de services par drone, utilise les drones pour des services liés à la télécommunication, la topographie, l'inspection, l'agriculture de plus en plus, l'inspection de canalisation, donc tout un tas de services qui permet en fait de répondre à des besoins pas naissants, mais différenciant des sociétés.
C'est-à-dire que là où on envoyait des êtres humains, des personnes physiques pour inspecter des équipements, aujourd'hui on envoie des drones.
Exactement. Disons que le drone est un formidable outil, un vecteur de captation qui permet de changer la donne quant aux méthodes de captation. Et donc ça nous permet d'imaginer toutes sortes de prestations à partir du moment où on intègre intelligemment des capteurs et de permettre d'être plus productif, plus rapide et plus économique.
Comment sont traitées les images après manuellement, on observe ou est-ce que vous avez des algorithmes qui permettent de le faire automatiquement?
Alors, tout dépend des secteurs. Effectivement, notre bureau d'études, maintenant, qui est composé d'une quarantaine de salariés à Servian, à côté de Béziers, nous permet de traiter la donnée acquise par l'ensemble de nos opérateurs sur le territoire, 28 agences en France, 8 à l'étranger. Et suivant, comme je vous ai dit, sur un secteur, si c'est de la topographie, ce sont des techniciens géomètres qui analysent la donnée, qui la traitent. Si c'est du génie civil, ce sont des architectes ou des ingénieurs en génie civil qui traitent cette donnée. Donc, on met des spécialistes là où il y a besoin de valoriser cette donnée, qui est l'enjeu majeur,
finalement. Ouais. Les entreprises sont de plus en plus sensibles à l'évaluation et à la gestion des risques. On en a évidemment beaucoup parlé cet été avec les incendies. Comment est-ce que les drones peuvent être utiles dans ces missions?
Les drones apportent plus d'informations, plus rapidement. On prend de la hauteur, on s'absout des obstacles au sol et donc ça nous permet d'être plus productifs. Voilà. On peut emporter surtout tout type de capteurs. On parlait des incendies, on a pu emporter, les pompiers utilisent maintenant régulièrement les drones avec des caméras thermiques pour repérer la naissance des feux. On peut y mettre des capteurs LIDAR pour faire de la topographie plus rapidement sur des zones forestières, dans les ENR par exemple, pour les photovoltaïques et les éoliennes. On peut y mettre des capteurs de pollution, on peut mettre toutes sortes de capteurs. Et c'est vraiment là tout ce qui est excitant dans ce métier qui est pour moi naissant et qui reste à inventer.
La réglementation, la question de la vie privée, la protection de la vie privée, ce sont des points essentiels lorsqu'on utilise des drones. L'an dernier, même le ministère de l'Intérieur s'était fait taper sur les doigts par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, parce que le ministère utilisait des drones à des fins de surveillance. Comment est-ce que vous gérez cette réglementation qui est à la fois complexe et contraignante ?
Alors, elle est contraignante, mais essentielle. Essentielle au développement de notre filière. Et je le souligne à chaque fois, la DGAC a fait un formidable travail il y a quelques années, déjà presque 8 ans, quant à l'éclosion d'une filière en permettant de faire des choses. Pour autant, il faut la contrôler. Il nous arrive encore régulièrement d'être menacés par des gens qui pensent qu'on les filme. Alors, il faut faire de la pédagogie. On ne fait que ça, de la pédagogie. Je suis d'ailleurs là pour ça, pour expliquer que nos drones, les drones civils professionnels, sont là pour faire un travail et qu'en aucun cas nous sommes là pour espionner. Concernant les drones pour la police, c'est un autre sujet. J'ai été gendarme moi-même pendant 20 ans, donc que je connais un peu. Et effectivement, il serait quand même plutôt agréable pour les forces de police de pouvoir utiliser ces nouveaux outils, à condition que ce soit bien encadré et par la CNIL notamment.
C'est pour veiller au respect de ces aspects réglementaires que vous avez recruté un ancien responsable de l'armée de l'air ?
Tout à fait. Les limites techniques du drone, je dirais qu'elles s'effacent très très rapidement de par le progrès technologique. Les limites réglementaires sont plus difficiles à effacer, et c'est pour ça que nous avons internalisé donc des compétences de réglementaires pour permettre de discuter avec les autorités, la DGAC, et de balayer certains verrous. En tout cas, d'entamer le dialogue et de pouvoir aller plus en avant.
Quel est votre regard sur les drones de loisirs ? C'est justement la complexité de la réglementation qui a provoqué un ralentissement du marché. Pensez que c'était nécessaire ?
Évidemment, c'était nécessaire d'encadrer ça. On peut pas tout permettre. Le drone reste quand même quelque chose qui pénètre dans l'espace aérien, donc avec un danger évident, quelque chose qui permet d'aller voir ailleurs et donc peut-être de pénétrer la vie privée des gens, et ça, c'était inacceptable. Pour autant, je suis pas persuadé que le drone de loisir a un grand avenir. Je suis plutôt persuadé que le drone est encore une fois un formidable capteur de captation, vecteur de captation, et qu'il permettra de faire énormément de choses pour le monde professionnel.
Instadrone, vous avez un parc de 120 drones, je crois, essentiellement des modèles achetés aux constructeurs chinois DJI. Est-ce que vos clients industriels ne sont pas inquiets de l'utilisation de technologies chinoises et de risques à la fois sur la sécurité et sur l'espionnage?
Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus, effectivement. La majorité de nos drones proviennent de DJI, qui est un acteur, l'acteur mondial le plus performant, 80% du parc mondial de drones, qui nous accompagne. On a la chance d'avoir été identifié par DJI et qui nous accompagne sur notre volonté d'aller en Europe et à l'étranger. Mais pour autant, il faut quand même utiliser des drones français dès lors qu'on va travailler avec l'État, avec l'armée, avec des sociétés qui ont un besoin de confidentialité.
Alors vous travaillez, excusez-moi, avec Parrot, fabricant français de drones agréé par le ministère des Armées. Ça, c'est une réponse aux impératifs de sécurité. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas uniquement avec des drones français ?
Alors, les drones chinois ont cet avantage qu'ils sont très performants. Il faut reconnaître qu'ils sont très performants, qu'ils nous permettent d'emporter tout type de capteurs et nous permettent d'être pragmatiques sur le terrain. Il y a quand même un sens économique à tout ça. Nous collaborons avec un constructeur français qui s'appelle Hexadrone, en plus de Parrot, qui produit une formidable machine et qui nous permet de réaliser quasiment le même type de prestations.
Mais là, on n'est plus sur des équipements légers. Hexadrone, ça commence déjà à être des drones de taille assez impressionnante.
Effectivement, mais nous, dans la plupart des cas, nous utilisons des drones qui font entre 3 et 8 kilos.
Xavier Niel, le patron d'Iliad, a une participation de 30% dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça a changé ? Je crois qu'il l'avait prise en 2020.
Exactement, il y a 2 ans. Alors Xavier Niel et ses équipes donc ont investi dans notre société. Alors pour nous, c'est formidable d'avoir un investisseur de la sorte qui n'est pas du tout dans le contrôle, mais plutôt dans l'accompagnement, l'encouragement, qui nous pousse chaque jour à aller un peu plus loin. Et je veux réitérer encore une fois ma véritable joie d'avoir cet investisseur dans nos rangs, qui nous permet d'aller à l'étranger, qui nous permet de nous structurer et qui nous permet d'être meilleurs.
Vous êtes un ancien gendarme. Comment est-ce qu'on passe de la gendarmerie au siège du chef d'entreprise ?
Alors, c'était pas finalement peut-être le destin. Lors en hélicoptère avec la gendarmerie, je me suis dit qu'il pourrait être agréable pour les particuliers ou les sociétés d'obtenir des photos aériennes. Et puis, bon, après 20 ans de gendarmerie, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais faire et que j'avais l'envie, en tout cas la passion dans le ventre, pour faire autre chose, et notamment l'entrepreneuriat qui me plaît énormément.
Merci beaucoup, Cédric Botella, fondateur d'Instadrone. Merci d'être venu en plateau ce matin. Il est 7h52. Tout au long de la semaine, BFM Business vous raconte l'histoire d'un groupe de luxe. Ce matin, Aude Kersulec nous emmène dans l'univers des cosmétiques avec le portrait du numéro 1 mondial, le groupe L'Oréal. Regardez.
C'est un petit chimiste en herbe qui a créé L'Oréal. À 26 ans, Eugène Schuller, ingénieur parisien, conçoit à la demande d'un coiffeur une teinture capillaire dite inoffensive, de laquelle il tire le nom de sa première entreprise, Société française de teinture inoffensive pour cheveux. C'est une innovation et sur le brevet de 1907, ce produit porte le nom de L'Oréal. Très travailleur, Eugène Schuller conçoit ses produits la nuit et pendant la journée, il fait le commercial auprès des coiffeurs. Vendre des teintures, c'est assez difficile à l'époque. Dans les milieux bourgeois, les femmes ne se colorent pas les cheveux. Heureusement, un coup de pouce inespéré vient de Coco Chanel. La créatrice réussit à rendre populaire la coupe garçonne et colorée. Et de la teinture, le chimiste va inventer l'ambre solaire, un succès au moment des premiers congés payés de 1936. Surnommé Monsieur Similleur, Eugène Schuller se partage entre plusieurs sociétés, L'Oréal bien sûr, les peintures Valentine ou encore Mon Savon et son journal Votre Beauté qui sert à assurer la promotion de ses produits. Mais à cause de son attitude collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale, Eugène Schuller n'a en 1946 plus le droit de diriger sa société. Il y met à sa tête un résistant et un ami, André Bettencourt, un nom qui va changer la destinée de L'Oréal. D'abord parce qu'André va se marier à la fille unique d'Eugène, Liliane, mais il fait aussi rentrer ses amis proches dans le cercle de L'Oréal. François Mitterrand devient un temps rédacteur en chef du journal Votre Beauté et François Dahl se hissera, lui, tout en haut de cet empire. La marque L'Oréal, si elle a réussi à rester dans les esprits, c'est beaucoup grâce à la publicité. Eugène Schuller y excelle et il s'allie à l'un des meilleurs de l'époque, Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis. La publicité valorise le consommateur et l'amène à succomber à de nouveaux besoins. La pub, un moyen, disait Schuller, de se défendre contre la paresse des consommateurs. Alors ça marche fort et quand le fondateur de L'Oréal s'éteint en 1957, il laisse les rênes à cet homme talentueux, François Dahl, patron emblématique, hein, qui fera grossir le portefeuille de marque de L'Oréal en rachetant notamment Biotherm, Garnier ou encore Lancôme. Dans les années 70, L'Oréal est tellement beau, tellement séduisant qu'il est courtisé. Alors pour éviter toute éventuelle OPA ou nationalisation de l'État français, la direction forme un pacte d'actionnaires avec le Suisse Nestlé. Des décennies plus tard, et même après avoir été dirigé pendant plus de 20 ans par un Anglais, Lindsay Owen Jones, L'Oréal est encore plus français. Depuis la mort de Liliane Bettencourt en 2017, Nestlé a vendu ses parts et la famille Meyers-Bettencourt, troisième et quatrième génération, possède aujourd'hui 35% du capital et garde le contrôle de L'Oréal.
La saga du luxe tout au long de la semaine avec Aude Kersulek. Il est 7h56 à suivre la météo. Juste après, ce sera le journal avec Claire Sergent.
Télé, radio et digital. Good morning business. Stéphane Pedrazzi.
Il est bientôt 8h à la une de l'actualité de ce mercredi. Les cours du pétrole toujours en baisse, à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre en Ukraine. Le baril de Brent est à 92$. Le brut américain est repassé sous les 90$ sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs. Quelle perspective pour la rentrée? Quelle perspective pour l'hiver prochain? On va en parler dans un quart d'heure avec Benjamin Nouvet, spécialiste matières premières chez Ophi Asset Management. Il nous apportera son éclairage à 8h15. Conséquence de la crise énergétique, l'Allemagne renonce finalement à stopper ses centrales nucléaires d'ici la fin de l'année. Selon le Wall Street Journal, l'exploitation va être prolongée. Est-ce le début d'un revirement sur cette question extrêmement sensible du nucléaire outre-Rhin? On y reviendra dans nos différentes éditions. Et puis on va vous parler des plateformes de streaming. Elles sont déjà confrontées au phénomène de partage de code des clients. Elles sont désormais confrontés aussi à leur infidélité. Les clients se désabonnent au gré des différentes séries qui leur sont proposées. Est-ce que le secteur est en train de s'adapter? Comment est-ce qu'il réagit? On vous racontera l'histoire tout à l'heure dans le journal de 8h30. Claire Sergent nous a rejoint en plateau. Claire, l'Allemagne qui peut-être est sur la voie d'un revirement stratégique plus de 10 ans après l'annonce de la sortie du nucléaire.
Ah oui, selon le Wall Street Journal, Berlin, qui cherche des alternatives au gaz russe, s'apprête finalement à retarder la fermeture de ses dernières centrales nucléaires. Delphine Liu.
C'est un virage à 180 degrés pour Berlin. Fin juin, le gouvernement allemand refusait encore de prolonger l'exploitation de ses trois dernières centrales nucléaires, censées fermer d'ici à la fin de l'année. Mais voilà, l'Allemagne est au bord de la pénurie. Le responsable de la gestion des approvisionnements alertait dans le Financial Times du risque sérieux de crise énergétique cet hiver. Selon le Wall Street Journal, la décision doit encore être adoptée formellement par le gouvernement et approuvé par le Parlement. Les libéraux du FDP sont pour. Les Verts et les sociaux-démocrates du SPD, d'abord réticents, semblent donc prêts à revoir leur position pour permettre à l'Allemagne de s'émanciper plus rapidement du gaz russe, à condition que la prolongation des réacteurs soit bornée dans le temps. Ces trois centrales n'assurent qu'environ 6% de la production d'électricité de l'Allemagne, mais leur prolongation permettrait de libérer autant de ressources gazières pour l'industrie et le chauffage des ménages.
Et conséquence directe de la fin programmée du gaz russe en Allemagne, Uniper, le principal importateur et stockeur de gaz dans le pays, accuse une perte nette de plus de 12 milliards au premier semestre. Uniper en grande difficulté. Il y a trois semaines, Berlin a annoncé qu'il rentrait au capital de l'entreprise à hauteur de 30%.
Et dans l'actualité également, les prix du pétrole qui n'arrêtent pas de reculer.
Oui, on est aujourd'hui au plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. Le baril de Brent flirte aujourd'hui avec les 92 dollars alors qu'il avait frôlé les 140 juste après le début du conflit. Forcément, ça se ressent à la pompe. Pour autant, il vaut mieux ne pas trop s'y habituer, Sofiane Aklouf.
Premier facteur de baisse, la crainte d'une récession mondiale qui joue sur la demande. Conséquence à la fois du conflit en Ukraine et des reconfinements en Chine. Des mesures sanitaires ont fait s'effondrer la consommation dans le pays. Cette baisse de la consommation intervient malgré les vacances qui incitent au déplacement et donc au passage à la pompe. De quoi présager d'une diminution de la demande à plus long terme. Deuxième facteur, les avancées sur le dossier du nucléaire iranien. La possible levée des sanctions permettrait d'apporter 1 million de barils supplémentaires sur le marché mondial. Pas sûr que cette tendance à la baisse se poursuive. D'abord, parce que de nouvelles sanctions sur le pétrole russe vont être appliquées d'ici à la fin de l'année. Un renforcement de l'embargo qui privera le marché d'1,5 million de barils par jour. La saison des ouragans risque également de compliquer l'équation avec la fermeture probable de plateformes pétrolières sur les côtes américaines. À plus long terme, la quantité d'or noir devrait donc se tarir plus rapidement que la consommation, avec à la clé une nouvelle hausse des cours.
Aux États-Unis, la prestigieuse université Harvard va offrir un accès gratuit aux étudiants aux revenus les plus modestes. Selon le Financial Times, 10% sont concernés, c'est-à-dire 200 sur les 2000 inscrits chaque année. Ils seront exonérés des 76 000 dollars de frais scolaires. Harvard devrait être l'endroit où les futurs leaders les plus talentueux peuvent venir ici réaliser leur potentiel, explique le doyen de l'université. Nous voulons donc lever les barrières financières qui les en empêchent et effacer le poids de la dette, conclut-il. Il leur restera toutefois à prendre en charge le coût de la vie et de l'assurance, qui représente tout de même 35 000 dollars par an.
Les mineurs de crypto-monnaie au pays du Père Noël, c'est une conséquence de la sécheresse.
Oui, le minage de Bitcoin, activité qui consomme beaucoup d'électricité, est elle aussi contrainte de s'adapter au changement climatique et à ses conséquences sur le marché de l'énergie. En Norvège, un spécialiste du secteur a pris une mesure radicale, Simon Tenenbaum.
Face à la sécheresse, le minage de Bitcoin déménage au-delà du cercle polaire. CryptoVault, un spécialiste basé en Norvège, a ainsi décidé de déplacer ses opérations du sud au nord du pays. En effet, la Norvège est aussi frappée par la sécheresse qui sévit en Europe. Or, les barrages produisent 90% de son électricité domestique. Les prix sur le marché, déjà en tension à cause de la crise énergétique, ont flambé. Sauf dans le nord, au-delà du cercle arctique, où les réserves en eau reste importante. CryptoVault, qui risquait de voir sa facture énergétique doubler cette année, n'avait pas le choix. L'électricité représente 80% de ses dépenses opérationnelles. Les pays scandinaves attirent depuis longtemps le minage grâce à leur électricité verte et bon marché, ainsi que leur climat qui limite les besoins en refroidissement. Mais la crise énergétique risque de changer la donne. La Suède, par exemple, troisième pays européen du secteur, réfléchit à prendre des mesures pour limiter le minage de crypto-monnaies sur son sol.
Voilà, au nord du cercle polaire, le Père Noël est finlandais. On ne veut pas de problème avec les Finlandais, il n'est pas norvégien. La question qu'on se pose tous ce matin, c'était une plaisanterie, une provocation. Elon Musk affirmait, en tout cas dans la nuit, vouloir racheter le club de foot anglais Manchester United.
Il semblerait bien que ce soit un canular, comme seul Elon Musk les connaît. Et c'est bien sur Twitter qu'il a choisi pour le dire. Alors, pour percevoir toute l'ironie du milliardaire, je vous refais le fil de l'histoire. Premier message posté hier soir. Je soutiens la moitié gauche des Républicains et la moitié droite des Démocrates, suivi de ce message donc, et j'achète Manchester United de rien, fin des guillemets. Et là, il y a un peu moins d'une heure, autre message du milliardaire que je vais avoir du mal à traduire littéralement, alors je vous le restitue. Stand up is my side hustle. Mais on comprend clairement qu'il a fait à la fois une bonne blague et de la provocation, comme il sait le faire.
Ça veut dire quoi? Que c'est son talent caché?
Le stand-up et son talent caché, c'est à peu près ce qu'on comprend.
Alors, si vous êtes anglophone, si vous avez une idée de ce qu'a dit Elon Musk, vous pouvez nous écrire sur Twitter, @ClaireSergent ou @StephPedrazi, et puis on lira votre traduction à l'antenne.
On veut bien une traduction littérale, parce qu'on n'a pas trouvé comment le faire.
Le télétravail, c'était très à la mode dans le secteur de la tech. Il semble bien que les grands groupes sont en train de faire marche arrière.
Ah oui, chez Apple, c'est le temps désormais de revenir au bureau. Le géant américain a demandé à ses employés de revenir travailler au siège au moins 3 jours par semaine dès septembre. Virginie Cook.
À partir du 5 septembre, les employés du siège d'Apple devront obligatoirement venir au bureau le mardi, le jeudi et un troisième jour qui sera choisi par leur manager d'équipe. C'est un nouveau pas vers un retour à la normale. Jusqu'à présent, les salariés devaient être présents sur site seulement 2 jours par semaine. Cela fait déjà plus d'un an que les dirigeants d'Apple tentent de réduire le télétravail. Les réunions face à face font partie de l'ADN du géant américain. Mais ce n'est pas au goût de certains salariés qui se sont habitués au télétravail. D'autres entreprises de la tech ont la même politique qu'Apple. C'est le cas d'Alphabet, la maison mère de Google, qui a demandé à ses équipes de venir au bureau 3 fois par semaine pour favoriser les échanges entre salariés. D'autres, au contraire, sont beaucoup plus flexibles, une façon de garder ou d'attirer les meilleurs talents. Selon le PDG d'Airbnb, les salariés les plus talentueux ne se trouvent plus à San Francisco. La plateforme autorise ses employés à travailler de n'importe où sur la planète 90 jours par an. Idem du côté de Facebook, Mark Zuckerberg encourage même le travail à distance et certains cadres du groupe ont par exemple décidé de vivre entre Londres et la Silicon Valley.
Enfin, la Corée du Nord a tiré 2 missiles de croisière, annonce du ministère de la Défense sud-coréenne ce matin. Premier test d'armement de Pyongyang depuis plusieurs semaines. Les tirs visaient la mer Jaune qui sépare la Chine de la péninsule coréenne. Les autorités militaires américaines et sud-coréennes sont en train d'étudier la portée de ces tirs.
8h09, les marchés financiers. Et de 5e séance de hausse hier à la Bourse de Paris. La question, Antoine Larigauderi, est-ce qu'il y aura une 6e séance de hausse aujourd'hui?
Et en tout cas, c'est bien parti. Les signaux sont plutôt bons. En avant-marché, on devrait avoir une hausse de 0,3% à l'ouverture qui ramènerait le CAC 40 sur ses niveaux de fin avril. Alors là, ça commence à devenir intéressant parce que vous savez, tout le débat du moment, c'est de savoir si c'est un petit influx aussi au milieu d'un marché qui reste fondamentalement baissier, un bear market rally, comme on dit du côté de Wall Street, ou si quelque chose d'un peu plus construit est en train d'émerger. Et franchement, ça en prend le chemin. Donc, 5 séances de hausse consécutives, une option sur une 6e, et des niveaux qui commencent à devenir intéressants. Il y a pas mal de traders qui sont en vacances en ce moment, mais qui commencent à regarder ça de près. Alors, c'est vrai que vous en avez beaucoup parlé. Il y a la problématique du pétrole, qui s'assagit très, très nettement. On est du côté des $93 maintenant pour le Brent de mer du Nord, et des 87 désormais pour le brut léger américain. On perd entre 12 et 15% sur un mois. Ça reste quand même une correction majeure. Il y a des taux d'intérêt sur le marché obligataires qui ne bougent plus trop. Alors, ils sont sur des niveaux élevés, hein, faut pas se tromper. Et ça nuit aux valeurs de croissance, notamment à la bourse en ce moment. Ça pèse un petit peu. Franchement, ça commence à devenir intéressant. À court terme, il faudra se méfier aussi parce qu'il y a pas mal d'indicateurs économiques prévus apparaître aujourd'hui, notamment du côté de la zone euro, la deuxième estimation de la croissance au deuxième trimestre. Il y aura quelques indicateurs aux États-Unis, puis surtout la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed qui vont vraiment donner le ton en matière d'orientation et de perspectives de taux d'intérêt, de perspectives monétaires. Donc la journée sera sans doute importante, mais pour l'instant, on l'aborde sur de sérieux fondamentaux et avec pas mal de supports.
Merci beaucoup Antoine Larigauderi. On se retrouve tout à l'heure juste après le journal de 8h30. On va parler un peu de sport puisque dans moins de 2 ans, ce sera le coup d'envoi des Jeux Olympiques Paris 2024. Cette semaine, Good Morning Business vous propose une série de reportages dans les coulisses de l'événement. Ce matin, on va parler de l'un des principaux défis, c'est le recrutement de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et notamment dans le secteur de la sécurité. Reportage avec Léo Dumas.
Nous voici au siège de l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Ici, déjà 800 salariés travaillent à la préparation de l'événement, mais le plus gros de la main-d'œuvre n'a pas encore été recruté. Il s'agit des volontaires. Un vrai défi pour l'organisation qui en attend 45 000. Une gigantesque campagne de recrutement est à venir. Début 2023, l'organisation des Jeux Olympiques ouvrira le portail de recrutement des volontaires pour un processus qui durera 9 mois. Et ce n'est qu'après l'été, à un an des Jeux, que les candidats sélectionnés seront informés. Un programme ouvert à tous, deux conditions seulement, avoir 18 ans au 1er janvier 2024 et être motivé, nous dit Alexandre Morénon-Condé, directeur du programme des volontaires.
Les volontaires sont le visage des Jeux. Ils vont être les premières personnes que les athlètes vont rencontrer, les premières personnes que les spectateurs vont rencontrer. Ils sont aussi l'âme des Jeux, c'est eux qui vont contribuer à créer l'atmosphère des Jeux avec les sites, avec les athlètes. Ils sont le troisième élément de l'identité des Jeux. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui sont motivés.
Alors que les Jeux se déroulent en plein été et que les pénuries de main-d'œuvre se multiplient, comment convaincre 45 000 personnes de s'engager pour plusieurs semaines de bénévolat? L'expérience au cœur du plus grand événement sportif du monde est si prometteuse que le directeur du programme est confiant.
Notre ambition, c'est d'offrir la meilleure expérience possible aux volontaires qui vont rejoindre le programme. On veut qu'ils aient des missions qui leur plaisent. On va avoir en plus de ça l'occasion de faire plein de rencontres, de développer des compétences, d'avoir la fierté d'accueillir le monde autour de nous.
L'organisation reçoit des candidatures tous les jours. Et avant même que la campagne ne commence, les collectivités locales comme la Seine-Saint-Denis cherchent déjà leurs candidats. Ce département a ouvert son propre programme. Objectif, présenter 2500 profils à Paris 2024. Amandine Renaud, la chef de projet du programme Toutes et tous volontaires de la Seine-Saint-Denis.
On a trois publics cibles pour ce programme-là. Les jeunes de 16 à 30 ans. La deuxième public cible, sans condition d'âge, des personnes issues du mouvement sportif et sans condition d'âge, des personnes en situation de handicap. Les jeunes et les futurs volontaires vont pouvoir passer des formations gratuitement offertes par le conseil départemental dans le cadre de ce programme-là. Et ils vont pouvoir être, comme aujourd'hui, candidats pour pouvoir être bénévoles et s'initier déjà aux grands événements sportifs.
Paris 2024 prévoit aussi des sessions de formation pour les volontaires recrutés. Ils seront mobilisables dans ce cadre dès le premier trimestre 2024, avant que certains ne soient mobilisés en amont des Jeux, dès l'ouverture du village des athlètes.
À suivre sur BFM Business et RMC Découverte, les cours du pétrole orientés à la baisse depuis maintenant quelques jours. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette baisse. On en parle juste après la pause avec Benjamin Nouvet, directeur des gestions matières premières chez OFI Asset Management. A tout de suite.
BFM Business, Good Morning Business, l'interview.
La baisse des prix du pétrole depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, on va en parler avec Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez OFI Asset Management. Bonjour Benjamin.
Bonjour Stéphane.
Quelles sont les raisons de cette baisse des prix du pétrole? On sait qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le ralentissement de la croissance mondiale, il y a le Covid en Chine, la driving season aux États-Unis. Quel est le facteur qui joue le plus?
Alors, le marché a décidé de voir effectivement le verre à moitié plein et de voir un peu tous les points qui justifiaient une baisse du marché. Vous le disiez, il y a aujourd'hui ces craintes de récession mondiale et en particulier en Europe qui pèse sur la demande mondiale, et en Chine avec la politique de confinement et la politique zéro Covid, on a vu la demande de pétrole ralentir. Ça, c'est un point vraiment important. Il y a eu d'autres éléments, et notamment la libération de stocks stratégiques par les Américains pour essayer d'apaiser un peu le marché. Et tout récemment, on a eu une bonne nouvelle aussi, c'est que les négociations avec l'Iran avancent, et donc le marché se dit qu'on pourrait récupérer une partie du pétrole iranien, ce qui pourrait là encore soulager un petit peu le marché. Et puis, dernier élément d'importance récent, les dernières statistiques montrent que malgré l'embargo sur le pétrole russe, eh bien la Russie est quasiment revenue à son niveau de production d'avant la crise ukrainienne, et que le pétrole de ce pays arrive aujourd'hui sur le marché. Tous ces éléments concourent à avoir un peu moins de tension à court terme sur la demande de pétrole, et donc à faire rebaisser les prix de l'or noir un petit peu partout.
On sait qui achète le pétrole russe?
Alors oui, il y a l'Inde a énormément pris de pétrole russe supplémentaire, mais globalement aujourd'hui on a des achats qui se multiplient parce que les Chinois également en achètent, mais on le voit bien, il y a quelques semaines on avait des discounts, enfin des remises importantes sur le pétrole russe au niveau international pour que les Russes continuent à réussir à vendre leur pétrole. Et aujourd'hui, Poutine et son gouvernement arrivent à vendre ce pétrole avec des discounts qui sont beaucoup plus réduits, ce qui montre bien qu'en fait, si le marché décide de voir le verre à moitié plein et de laisser rebaisser les prix du pétrole, la situation reste tendue parce que on a besoin de ce pétrole russe pour arriver à équilibrer le marché. Et je vous rappelle qu'il est prévu qu'à compter de 2023, l'Europe arrête d'importer le pétrole russe, et ce qui représente quand même 1 500 000 barils par jour, sur à peu près 100 millions de barils par jour de consommation. Donc potentiellement, on pourrait très vite repasser dans une situation de tension. Et il faut se méfier de cette fausse impression de confort qu'on a aujourd'hui sur le marché du pétrole.
Est-ce que le marché s'inquiète de la visite en Arabie Saoudite du président chinois Xi Jinping ? On imagine qu'il a des objectifs très précis, notamment en matière d'approvisionnement en matières premières et en pétrole en particulier.
Oui, les Chinois ont eu cette politique depuis plusieurs années d'assurer leurs approvisionnements en matières premières. Ils l'ont fait beaucoup sur les métaux en signant des partenariats avec un certain nombre de pays en Afrique et en Amérique du Sud. Et effectivement, les Chinois ont compris depuis bien plus longtemps que les Européens l'importance de sécuriser leurs approvisionnements en matières premières. Donc effectivement, il est très possible que Xi Jinping aille en Arabie Saoudite pour essayer de mettre en place un certain nombre de partenariats. La Chine est un marché énorme, de façon à pouvoir sécuriser ses approvisionnements en pétrole, parce que au-delà des problématiques de court terme qu'on évoque, Stéphane, il y a une problématique de long terme qui va devenir de plus en plus récurrente, c'est que le pétrole est un marché un peu particulier. Si vous ne faites rien, tous les ans, la production d'un puits de pétrole diminue d'à peu près 4 à 5%. C'est ce qu'on appelle la déplétion naturelle. Et compte tenu des contraintes environnementales, de la nécessité de faire la transition énergétique pour prendre en compte le changement climatique, eh bien, les 6 dernières années, les investissements dans le secteur pétrolier ont été insuffisants pour compenser cette baisse de production. Donc, on a une consommation qui ne cesse d'augmenter. On devrait atteindre un nouveau record cette année. Et de l'autre côté, une production qui va être de plus en plus contrainte. Donc, la sécurisation de ces approvisionnements va être extrêmement importante dans les années à venir. Et les Chinois sont sans doute en train de s'en préoccuper pour éviter de se retrouver à court d'or noir dans les années qui viennent.
Quelles sont les perspectives d'évolution des cours à court-moyen terme ? Beaucoup de spécialistes nous disent qu'on se dirige, sauf évidemment crise majeure ou nouveau choc géopolitique, vers une stabilisation.
Alors, j'aimerais partager cet optimisme. Je suis un tout petit peu plus inquiet parce qu'on est quand même dans une situation relativement compliquée. Il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est la parité euro-dollar qui nous pénalise énormément, nous, en Europe, parce que le dollar s'est renforcé. Nous achetons notre pétrole en dollars et donc forcément, ça a un impact sur la facture que nous allons payer. On le voit bien, aujourd'hui, le prix du pétrole est moins élevé que le prix du pétrole en 2011, et pourtant, nous payons plus cher notre pétrole à la pompe. Ensuite, on est encore dans la saison des ouragans sur le bassin Atlantique. Vous savez, dans cette période-là, le climat fait qu'un certain nombre de phénomènes météo, de dépressions tropicales se créent sur l'Atlantique et finissent parfois leur course au milieu du golfe du Mexique et contraignent la production américaine à fermer. Si on avait un gros ouragan qui devait se diriger vers les plateformes pétrolières, ça pourrait à nouveau inquiéter le marché. Et puis, on va, je le disais, devoir se passer d'une partie du pétrole russe à compter de début 2023, ce qui va être également un problème majeur. Et on a ce problème d'investissement long terme qui va peser de plus en plus lourd parce que on n'arrive toujours pas à contraindre notre demande, alors que de l'autre côté, je le disais, la production est contrainte. Donc je ne serais pas du tout étonné pour ma part qu'on ait peut-être une stabilisation, mais pas sur les niveaux actuels, plutôt sur des niveaux, on va dire, 10 à 15 dollars au-dessus, c'est-à-dire sur des niveaux proches des 100 dollars, toutes choses égales par ailleurs, sauf à ce qu'on ait un ralentissement économique majeur, ce qui n'est à souhaiter pour personne.
Comment est-ce que vous voyez le risque de pénurie, de crise énergétique pour l'hiver prochain en Europe ? Je pense évidemment au marché du gaz. Vous parliez de demandes contraintes. L'objectif, c'est de réduire notre consommation de 15% et en Allemagne, on parle de 20%.
Oui, alors c'est un problème qui pourrait aussi rejaillir sur le prix du pétrole. Vous savez, il y a un équivalent en termes de puissance énergétique entre le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, le prix du gaz est 4 à 5 fois plus élevé que le prix du pétrole. Et donc, on commence aussi à avoir un certain nombre d'acteurs qui réfléchissent à switcher le pétrole contre le gaz dans leur processus industriel quand ils le peuvent, de façon à réduire un peu la facture. Donc, ça va être un point important. L'hiver va être très compliqué. Espérons simplement qu'on ait un hiver qui ne soit pas trop dur, parce que même avec les réductions dont on parle, il y aura sans doute des contraintes cet hiver. On ne peut pas, en quelques mois, remplacer un acteur de la taille de la Russie dans notre approvisionnement en gaz. Et donc, il faut espérer que la météo soit plutôt clémente cet hiver pour limiter les impacts. Mais on le voit bien, le marché est très inquiet. Vous avez en plus d'autres problèmes qui viennent s'ajouter à ça. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le niveau du Rhin est sur est en dessous de la cote d'alerte. Et donc, on ne peut plus faire circuler les barges qui amenaient notamment du charbon en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'on est contraint également sur le charbon. On est contraint sur le gaz. La France est contrainte aujourd'hui, alors que c'est un acteur majeur en Europe et un exportateur majeur, sur sa production nucléaire. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, il est très probable que l'hiver soit très difficile à passer. Cet hiver et probablement le prochain également.
Niveau du Rhin critique, on en parlait effectivement hier matin dans Good Morning Business. L'Allemagne, a priori, va prolonger l'exploitation de ses trois dernières centrales nucléaires au-delà de la fin de l'année. Elle devait s'arrêter, c'est une information du Wall Street Journal. Vous pensez que c'est inévitable ?
Je pense que c'est une décision effectivement qui est sage, parce que on le voit bien, la difficulté de réduire notre consommation énergétique est extrêmement importante, et aller se priver aujourd'hui d'un outil qui fonctionne dans une situation aussi critique pour l'Europe, c'est se tirer une balle dans le pied économiquement. Il faut bien comprendre que sans énergie, sans électricité, il n'y a pas de croissance. Et donc, si l'Allemagne avait fait le choix idéologique, entre guillemets, de fermer cette centrale dès la fin de l'année sans garder ce moyen de production pour l'hiver, eh bien, ça aurait profondément pénalisé la production allemande, la croissance allemande, mais également la croissance européenne. Nous allons avoir besoin de toutes les marges de sécurité pendant l'hiver et de la solidarité européenne pour que les exportations et les passages d'électricité transfrontaliers jouent à plein, de façon à maintenir un équilibre en Europe si on veut pouvoir passer cette période avec le moins d'incidents possibles sur la production et sur la croissance.
Merci beaucoup Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez OFI Asset Management. Le monde qui bouge, il est 8h26.
Good morning business, le monde qui bouge.
Avec Ben Aouda Abdedaïm, on en parlait à l'instant avec Benjamin Louvet, le chef de l'État chinois qui pourrait dans les jours qui viennent se rendre en Arabie Saoudite. Dans quelles conditions et avec quels objectifs ?
Il faut d'abord voir que ça fait pas loin de 3 ans que Xi Jinping ne sort plus de son pays. C'est dire la portée politique du choix de son premier voyage à l'étranger. Pour l'heure, rien ne filtre dans les médias étatiques, mais sur les réseaux sociaux chinois, des commentateurs se raccrochent à différentes indications, notamment à certaines images supposées montrer les préparatifs d'un accueil grandiose, en tout cas bien plus enthousiaste que celui réservé au mois de juillet au président des États-Unis. Après Riyad, le chef de l'État chinois se rendrait dans la grande ville portuaire de Jeddah et à Neom, le projet de métropole futuriste dans le nord-ouest, cher au prince héritier Mohamed Ben Salman. D'après les sources saoudiennes anonymes jusqu'ici citées, il sera procédé à la conclusion d'une série d'accords économiques et scientifiques allant de l'énergie à l'agroalimentaire. Pékin ne confirme toujours pas ce déplacement, mais ne le dément pas non plus. Interrogé par une chaîne chinoise basée à Dubaï sur les relations avec l'Arabie Saoudite, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a seulement déclaré que les deux pays sont des partenaires stratégiques globaux, mais il a ajouté « Nous sommes prêts à travailler ensemble pour continuer à cimenter la confiance et à approfondir la coopération ». On peut donc en déduire qu'il s'agit maintenant d'aller au-delà du cadre mis en place en 2016 et qui a conduit 5 années plus tard à ce que la Chine devienne le plus important partenaire commercial des Saoudiens. Il y a 2 mois aussi, en marge d'un forum à Singapour, les deux ministères de la Défense ont passé en revue les dossiers d'intérêt commun, pour reprendre la formule employée par l'agence de presse officielle saoudienne. Ça pourrait donc déboucher sur des liens militaires renforcés, et alors la relation prendrait une toute autre dimension.
Dans quelle mesure est-ce que cette possible visite est susceptible d'altérer le pacte entre les Américains et les Saoudiens?
Alors, Washington, pour le moment, tente de réaffirmer sa place. Un diplomate américain de haut rang vient de qualifier ainsi les États-Unis de partenaire vital pour l'Arabie Saoudite. Comprendre donc que, quoi qu'il se passe ces temps-ci avec Pékin, le royaume ne saurait se passer de son protecteur historique. Un ancien responsable des dossiers moyen-orientaux sous la présidence Bush-fils considère dans cette même logique que si les Saoudiens achètent des armements aux Chinois, des drones notamment, ça doit être vu comme un moyen de se créer un effet de levier face aux États-Unis et non une volonté de s'éloigner des Américains. En attendant de pouvoir analyser la consistance exacte de cette possible visite, on peut relever combien l'État chinois apprécie la façon en ce moment dont Riyad se démarque de Washington sur le dossier de Taïwan. La semaine dernière, le nouvel ambassadeur saoudien à Pékin, reçu au ministère chinois des Affaires étrangères, a réaffirmé le soutien de l'Arabie saoudite au principe d'une seule Chine, englobant donc le Taïwan, au nom, dit-il, du refus de son pays de s'ingérer dans les affaires intérieures des États souverains. Riyad veille par ailleurs à ne jamais aller à l'encontre de ce que fait la Chine dans sa région du Xinjiang vis-à-vis de la minorité musulmane ouïghour. L'ambassadeur saoudien, encore lui, cité par un quotidien officiel chinois, parle même de réalisations remarquables dans ce territoire. Il faut voir, comme l'écrit un média irakien proche de l'Iran, que Pékin n'a pour sa part jamais commenté publiquement l'opération militaire saoudienne au Yémen, l'imposition d'un blocus sur le Qatar ou bien encore l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Mais l'éventuel déplacement du président Xi Jinping aurait également un aspect de stricte politique intérieure chinoise et il est fondamental. Entreprendre un tel voyage à l'étranger d'une telle importance stratégique peut, avant le congrès du Parti communiste qui sera déterminant, servir aussi à démontrer toute sa confiance, toute son emprise dans la vie politique chinoise.
Merci beaucoup Benaouda Abdedaïm pour Le Monde qui bouge. Il est 8h30, on est à une demi-heure du coup d'envoi des cotations à la Bourse de Paris. Sachez qu'on attend une ouverture à la hausse, même s'il y a beaucoup de catalyseurs qui peuvent changer la donne. On en parlera dans un instant avec Antoine Larigauderie qui sera en direct du siège d'Euronext à La Défense. Il est tout juste 8h30. Un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent et avec cette information en provenance des États-Unis, l'Inflation Reduction Act, vous avez vu mon anglais. Le vaste plan d'investissement pour le climat et la santé vient d'être ratifié outre-Atlantique.
Ah oui, Joe Biden doit le promulguer ce soir à la Maison-Blanche. Le texte prévoit des incitations financières pour diriger l'économie américaine vers le renouvelable, avec une enveloppe de 430 milliards de dollars. Laura Cambeau, surtout, cette loi instaure un impôt minimal de 15% pour lutter contre l'optimisation fiscale abusive.
Oui, et c'est la fin du coup de ces exemptions fiscales pour tous les grands groupes américains. Toute entreprise qui réalise un résultat comptable supérieur à 1 milliard de dollars devra payer un impôt minimum de 15%. Il y aura seulement quelques déductions et crédits d'impôt pour des impôts qui sont déjà payés à l'étranger, des dépenses pour la recherche et le développement et des investissements en capital. L'objectif de la Maison-Blanche, vous le disiez, c'est de créer une arme anti-optimisation fiscale. Il y a 470 groupes dont le résultat est supérieur à 1 milliard de dollars et sur ces 470 groupes, il y a environ 150 qui ont acquitté un taux inférieur à ces 15% l'année dernière. Il y a par exemple des géants comme General Motors, Apple, Amazon, Exxon ou Nike. Avec cette mesure, le gouvernement espère récupérer 35 milliards de dollars dès l'an prochain et 222 milliards de dollars dans les 10 années à venir. Petite précision, il s'agit de l'impôt national. Il est donc bien différent de l'impôt minimum mondial approuvé sous l'égide de l'OCDE qui, lui, n'est pas intégré à ce plan anti-inflation. La secrétaire au Trésor Janet Yellen assure tout de même qu'il y aura des incitations au fil du temps à adopter cet impôt mondial.
Merci Laura. Malgré la hausse des prix à la consommation aux États-Unis, le secteur de la distribution se porte bien.
Oui, Walmart, le numéro 1 américain des supermarchés, a rassuré trois semaines après son avertissement sur résultats et la chaîne de bricolage Home Depot a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Sofiane Aklouf.
Certes, les bénéfices de Walmart vont bien baisser cette année à cause de l'inflation, mais les supermarchés américains vont limiter la casse. Le groupe anticipe une croissance de l'ordre de 4,5% de ses ventes cette année grâce aux promotions réalisées dans les magasins, explique le spécialiste en investissement John Plassard.
Ils ont un niveau de stock qui est énorme, notamment à cause de tout ce qu'ils avaient commandé avant la fin de l'année en pensant que la demande allait revenir et qu'on n'allait pas avoir des anticipations de récession. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des énormes promotions Et notamment, le CEO de Walmart a dit qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient en magasin, ce qui n'était plus autant le cas avant, parce que les gens réservaient sur Internet. Et on voit que les gens viennent chercher les promotions chez Walmart.
La chaîne de bricolage Home Depot fait mieux que prévu, malgré le ralentissement du marché américain. Le bénéfice bondit de 7% à 5 milliards de dollars. De bons chiffres qui s'expliquent par une hausse des prix. Des résultats salués en bourse par les investisseurs, mais la prudence reste de mise en raison de la flambée de l'inflation et du contexte géopolitique.
Tout un symbole, ça se passe toujours aux États-Unis. La célèbre université Harvard va offrir un accès gratuit aux étudiants dont les revenus sont particulièrement modestes.
Et selon le Financial Times, 10% des étudiants sont concernés, c'est-à-dire 200 sur les 2000 inscrits chaque année. Ils seront exonérés des 76 000 dollars de frais scolaires. Harvard devrait être l'endroit où les futurs leaders les plus talentueux peuvent venir ici réaliser leur potentiel, explique le doyen de l'université. Nous voulons donc lever les barrières financières qui les en empêchent et effacer le poids de la dette, conclut-il. Il leur restera à prendre en charge le coût de la vie et de l'assurance qui représente quand même 35 000 dollars par an.
Déjà confrontés au partage de codes de ses clients, les plateformes de streaming de leurs clients sont désormais confrontées à l'infidélité des consommateurs.
Ah oui, c'est terrible, hein. C'est cette facilité que nous avons à jongler entre les plateformes, à nous désabonner dès que notre série préférée est terminée. Un phénomène de plus en plus marqué et qui inquiète les géants de la vidéo comme Netflix, Disney+, et qui pose la question de l'avenir de leur business model. Simon Tenenbaum.
Les clients des plateformes de vidéos sont de plus en plus versatiles. Aux États-Unis, le taux moyen de désabonnement a atteint un record en juillet. Seuls 55% des Américains qui s'étaient abonnés à Netflix en janvier l'étaient encore cet été. En France, le nombre moyen d'abonnements par foyer stagne depuis un an. Alors que l'inflation pousse les consommateurs à faire des choix, beaucoup de téléspectateurs décident de résilier dès qu'ils ont regardé la série ou le film qui les intéressait. Ils sont nombreux à jongler entre les plateformes. 19% des consommateurs de vidéos à la demande ont résilié au moins 3 offres ces 2 dernières années. Face à l'abondance de choix, même les clients anciens, jusque-là fidèles, n'hésitent plus à aller voir la concurrence. Voilà pourquoi Netflix en particulier connaît en ce moment une crise de croissance. Si les plateformes cherchent des parades, par exemple en étalant sur plusieurs semaines la diffusion des séries, elles sont surtout poussées à dépenser toujours plus pour retenir leurs clients, ce qui risque de peser pour longtemps sur leur rentabilité.
Et si tout ça n'était qu'un canular, ça nous a beaucoup occupé ce matin, canular de Elon Musk, le milliardaire américain.
Oui, qui n'a jamais eu l'intention d'acheter le club de foot anglais Manchester United, mais il s'est servi de Twitter pour le laisser penser. Tout commence hier soir par ce premier message: je soutiens la moitié gauche des républicains et la moitié droite des démocrates. Il est suivi de ce commentaire: et j'achète Manchester United. De rien, Twitter s'emballe. Puis il y a une heure, Elon Musk explique sarcastique que le stand-up, la plaisanterie, est en fait sa passion, sa seconde passion. Je remercie d'ailleurs la traduction qu'on a reçue sur Twitter.
Le grand retour aux affaires du fondateur ultra controversé de WeWork, vous savez, ce sont les bureaux partagés.
Oui, Adam Neumann est en train de créer une nouvelle entreprise, toujours dans le secteur de l'immobilier. Les contours sont encore flous, mais il a déjà levé 1 milliard de dollars. Marie Cœur de Roy.
Après WeWork, Adam Neumann est-il en train de créer une nouvelle bulle dans le monde de la PropTech ? Un fonds d'investissement américain vient de miser 350 millions de dollars sur sa nouvelle entreprise, faisant d'elle une nouvelle licorne de l'immobilier. Une entreprise dont on ne sait pourtant presque rien. Elle a un nom, Flo, une date de lancement, 2023, et un champ d'action, le résidentiel. Mais pour le reste, le mystère reste entier. S'agira-t-il d'accès à la propriété, d'un service de location ? La presse américaine a en tout cas découvert qu'Adam Neumann avait déjà acheté 3000 logements dans 4 grandes villes américaines, dont Miami. Mais elle s'interroge. Certains dans la Silicon Valley ironisent et se demandent même s'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague après la chute vertigineuse de WeWork. Business model douteux, management scandaleux, départ forcé pour Adam Neumann. La valorisation de l'entreprise est passée de près de 50 milliards de dollars en 2019 à 4 milliards de capitalisation boursière aujourd'hui.
Encourager les familles à avoir davantage d'enfants, l'histoire se passe en Chine. Le gouvernement dégaine une nouvelle série de mesures pour encourager la natalité.
Et car depuis des années, les autorités tentent de résoudre cette crise démographique qui frappe le pays. En 2016, Pékin a mis fin à sa politique de l'enfant unique. Mais si rien n'est fait, la population du pays devrait diminuer dès 2025 à Pékin. Le correspondant de BFM Business, Sébastien Lebelsic.
Oui, pour relancer la natalité, la Chine sort donc le carnet de chèques avec une batterie de mesures annoncées ici, des subventions, des déductions fiscales et de meilleures assurances santé, ainsi que des aides dans l'éducation, le logement et l'emploi destinés aux familles. C'est ce que préconise en tout cas le ministère de la Santé, qui estime que de nombreux services, notamment les garderies, sont insuffisants en Chine. Chaque province devra donc s'assurer désormais de disposer d'assez de crèches d'ici la fin de l'année pour les enfants de 2 à 3 ans. Certaines villes les plus riches ont déjà mis en place des crédits immobiliers, des avantages fiscaux, des aides à l'enseignement et même des subventions pour encourager les femmes à avoir plus d'enfants. Cette politique pourrait être désormais étendue à l'ensemble du territoire avec un système en fait d'allocation familiale sur le modèle français. Est-ce que cela sera suffisant pour relancer la natalité? Pas sûr. Après 35 ans de politique de l'enfant unique, la Chine veut encourager les femmes à avoir 2, voire 3 enfants, mais sans succès jusque-là, en raison notamment du coût de la vie, du coût de l'éducation et d'infrastructures insuffisantes pour la petite enfance, sans compter la baisse du nombre de mariages en Chine, du jamais vu depuis 40 ans.
Et puis ce chiffre qui nous parvient à l'instant, l'inflation qui continue d'accélérer en Grande-Bretagne, elle franchit la barre symbolique des 10%, 10,1% en rythme annuel. Les prix qui augmentent plus vite que prévu, les économistes tablaient sur une inflation à 9,8%. Ça fait 40 ans que l'Angleterre n'avait pas connu un tel niveau d'inflation.
Merci Claire. Les marchés financiers, il est pratiquement 8h40. On retrouve Antoine Larigauderi en direct du siège d'Euronext à La Défense. Antoine, les catalyseurs du jour, il y a déjà évidemment un gros agenda macroéconomique et puis l'accalmie qui se confirme du côté du pétrole.
Oui, et puis le mouvement est en train de s'amplifier. Le baril de Brent de Mer du Nord est en train doucement de revenir vers le support des $93. On pourrait même passer en dessous, au vu des dynamiques de ce matin. On est à 93,07, là, tout juste. On est à $87 pour le baril de brut léger américain. En gros, on perd entre 12 et 15% sur un mois, suivant les qualités de brut. Donc, il y a une vraie accalmie de ce côté-là. Ça a permis, encore une fois, de soutenir certains secteurs qui étaient un petit peu délaissés ces derniers temps pour cause de pétrole cher, notamment le transport, l'aérien, etc. On a pu le voir à la bourse. Maintenant, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on va arriver à des supports techniques qui vont faire repartir le brut? Parce que là, on a vraiment l'impression d'une dynamique qui ne veut pas s'arrêter à court terme. Intéressant de voir ce que ça va faire. Du côté de l'agenda macroéconomique, on a beaucoup de choses à venir, notamment la deuxième estimation de la croissance au deuxième trimestre pour la zone euro. On aura quelques indicateurs en provenance des États-Unis et les minutes de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine ce soir à 20h, et là ça va être intéressant parce qu'on attend des précisions en matière de cadence de relevé de taux, de normalisation de la politique monétaire et toutes les anticipations qui vont suivre. Donc du coup on pourrait avoir une fin de séance agitée du côté de Wall Street et un début de séance un petit peu agité sur les marchés européens demain matin en fonction de ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Pour l'instant on assiste à une légère tension, on va dire. On a la dette allemande à 10 ans qui se rapproche à nouveau d'un pour cent. On a une petite tension sur la dette française à 1,56, 2,84 pour la dette américaine. Ça reste relativement calme. Du côté des marchés actions, encore une fois, le CAC 40 devrait aligner une nouvelle hausse à l'ouverture et notamment peut-être bien sur des plus hauts qui nous ramèneraient au niveau du mois d'avril.
Merci Antoine, on se retrouve tout à l'heure à l'ouverture du marché parisien. Une question de circonstance à présent, à quelques jours de la rentrée, est-ce le moment d'investir dans un logement étudiant? Le marché est en pleine mutation depuis la crise sanitaire et a fortiori dans un contexte de remontée des taux. Élément de réponse avec Marie Cœur de Roy.
Le marché du logement étudiant est clairement en train d'évoluer, quête de confort, quête d'espace et quête d'économie. À l'image de ce qui se passe plus généralement sur le logement tout court, les étudiants semblent de moins en moins attirés par Paris et l'Île-de-France depuis le Covid. C'est ce que montre le baromètre de la plateforme Lox Service. Alors certes, cette année encore, c'est toujours l'Île-de-France qui reste devant, avec 20% des étudiants qui cherchent à s'y installer, mais cette part est en baisse constante depuis la crise sanitaire. En 2019, la région concentrait ainsi 28% des recherches des étudiants. Alors parmi les nouvelles villes qui se démarquent auprès des étudiants, Angers, c'est ici que la tension locative est la plus forte. C'est là qu'il y a le plus de demandes d'étudiants par offre de location. À Angers, comptez en moyenne 4,5 demandes pour un seul logement à la location. Il faut bien voir que Paris ne fait même plus partie des 10 villes les plus tendues de France sur le logement étudiant. En même temps, vu le niveau des loyers à Paris, on les comprend, les étudiants, c'est là qu'ils restent. l'Est et de loin les plus élevés de France, quasiment 850 euros en moyenne. Pour autant, Paris est la seule ville où, sur les trois dernières années, les loyers étudiants s'affichent en baisse, moins 3% par rapport à l'avant-crise. Toutes les autres villes, en revanche, progressent et certaines flambent littéralement, à l'image d'Angers toujours. C'est la plus forte hausse de ces trois dernières années sur les loyers étudiants, plus 11,5%. Derrière arrive La Rochelle, avec près de 10% de progression. La Rochelle, avec un loyer de 516 euros par mois, est même devenue plus chère que Lille.
Marie-Cœur de Roy pour notre rendez-vous IMO à suivre après la pause Culture Geek, puis le débat avec Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose et Emmanuel de Chypre, bien sûr.
BFM Business, les chroniques de l'été. Culture Geek, Frédéric Simotel, Anthony Morel.
Salut Anthony.
Salut Fred.
Alors aujourd'hui, on va parler des sports aquatiques dans cette chronique de l'été. Ça va cartonner sur les plages cet été, et notamment ce mini scooter sous-marin.
Ouais, alors c'est un appareil assez étonnant, hein, qui permet de transformer n'importe quel nageur du dimanche en super-héros niveau Aquaman, on va le dire comme ça. Donc c'est un appareil qui ressemble, comment le décrire ? À une petite torpille,
ouais, c'est
ou
ça,
un gros
ouais.
suppositoire, c'est au choix. Il y a une hélice à l'arrière, tu as deux poignées sur les côtés, donc tu te saisis des poignées, tu tends les bras vers l'avant comme Superman, tu appuies sur le bouton, hop, l'hélice se met en marche, et là tu es propulsé à grande vitesse sous l'eau. Alors quand je dis à grande vitesse, 8 km/h, ouais, ce qui sous l'eau est pas mal, hein. C'est la vitesse d'un nageur olympique, donc ça fonctionne pas mal. Et puis après tu peux y ajouter une petite GoPro par exemple pour filmer tes exploits
et
aquatiques.
Puis, c'est ce qu'on voit à l'écran, on peut même mettre trois torpilles là.
Tu peux les coupler en fait, les modules. Là t'en as un, c'est bien pour un enfant. Si tu en mets une deuxième ou une troisième, tu vas vraiment gagner en puissance, en autonomie aussi. Bon, ça va fonctionner très très bien. Ça attire les regards. Je sais que t'en avais testé un, toi, peu comme ça.
Ah, ça attire.
C'est
ça...
pas mal. Qui était un peu plus volumineux là, c'est vraiment le dernier modèle. C'est une startup qui s'appelle Sous Blue qui fait ça, s'appelle le White Shark Tiny. Alors ça coûte autour de 600 euros, ouais. Donc c'est un petit investissement.
Et
quand même.
Alors on peut descendre en profondeur. Il y avait aussi l'histoire d'autonomie, moi, qui
écoute, le premier là, modèle, c'était un peu. Ils promettent 45 minutes. Ouais. En vrai, si tu l'utilises à vitesse max, tu vas plutôt être autour de 25-30 minutes probablement. Et puis tu peux aussi l'utiliser pour motoriser, par exemple, un paddle ou un canot gonflable. Donc voilà, il y a plein d'utilités pour ces petits scooters sous-marins.
Et bien voilà, ben on va suivre ça avec ce Tiny. Justement, tu parlais des paddles motorisés. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à en voir certaines, des sortes de trottinettes, hein, des mers, c'est
ouais.
ça?
Les trottinettes, on les fuit en ville, on va les retrouver à la plage, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, alors quand on dit trottinette, en fait c'est une façon de parler, en fait c'est un paddle si tu veux, avec donc une grosse planche, avec un guidon à l'horizontale, donc tu es debout en fait dessus. D'accord. Comme sur une trottinette.
On est plus stable,
tu vas pouvoir même être à plusieurs, c'est-à-dire 2-3 personnes en famille. Alors là c'est pépère, tranquille, balade le long du littoral, un peu moins acrobatique que le petit scooter avec lequel tu peux faire des figures sous-marines absolument incroyables, mais c'est un autre moyen de découvrir les côtes, pourquoi pas. Et ça c'est une start-up aussi provençale qui a mis ça au point, qui ouais, s'appelle Blue Way.
Ouais, et puis là, moi c'est toujours l'histoire d'autonomie là, on se balade 7 ou 8 heures avec ça.
Ah oui, là c'est pour le coup tu peux te balader tranquille, mais ça va plus lent, c'est plus lent aussi, hein.
Non, eh ben écoute, en tout cas c'est pas trop mal. Et alors et si on veut des sensations un peu plus fortes, parce que là on était à 8 km/h, petite balade pépère. Bon, on veut que ça pulse un peu.
Un petit jet ski volant, par exemple.
Bah oui.
Hein, tranquillement. En plus, conçu par Frankie Zapata, ouais. Himself. Bon, qu'on connaît bien. C'est bien, Frankie Zapata, c'est par exemple le skateboard volant qu'il a mis au point. Absolument incroyable.
Et puis, aller voir sur YouTube, son gros gadin aussi.
Il s'est pris une gamelle impressionnante, effectivement.
Sans gravité.
Alors, non, mais c'est ça. Alors, ça peut être dangereux, même quand on maîtrise. Le jet ski, c'est un peu différent. C'est plus safe, j'allais dire, parce que tu es assis, évidemment. Mais là encore, turbo-propulsé, tu as en fait un tuyau avec de l'eau à haute pression qui va le faire voler au-dessus des flots. C'est absolument incroyable. On voit les images.
Sont...
C'est-à-dire que vraiment, tu fais des vols à plusieurs mètres au-dessus de l'eau et tu as des sensations absolument incroyables avec un système de stabilisation automatique qui fait que normalement, t'es pas censé trop tomber. Bon, faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Donc ça fait partie encore une fois de ces nouveaux sports nautiques qu'on va voir arriver dans les mois et les années qui viennent.
Eh ben, de quoi s'amuser sur les plages. Merci Anthony. Puis à très bientôt pour une nouvelle chronique geek de l'été.
BFM Business, les chroniques de l'été.
Le retour de l'inflation, c'est évidemment le thème dominant de ces derniers mois et c'est le thème du débat de ce mercredi avec Emmanuel de Chypre, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Le marqueur numéro 1 aujourd'hui, le retour du fantôme de l'économie, s'appelle l'inflation. Alors je sais que Jean-Marc Daniel ne sera pas d'accord avec moi, mais enfin quand je vois, moi, 8,5-8,6 d'inflation en zone euro, 5,8 en France, des coûts de production qui prennent 10%, d'accord, on n'est peut-être pas dans la définition académique de l'inflation, mais enfin en tout cas pour la plupart des gens, ça y ressemble. Moi j'y vois trois origines de cette inflation. L'extraordinaire désorganisation de l'ensemble du système productif qui est d'abord né de Covid, de la crise en Ukraine. Après, il y a quand même un phénomène de régionalisation, même parfois de relocalisation, qui est évidemment un élément inflationniste. Et puis la transition verte. Le vert, c'est cher, on le sait. Ça va être très visible, notamment dans certains secteurs comme l'automobile, et évidemment l'énergie, et même d'ailleurs le nucléaire. On se rend compte qu'on est face à des montagnes d'investissement, et le kilowattheure produit au nucléaire, a priori, sera plus cher demain. Et franchement, sur l'histoire de savoir si c'est provisoire ou plus durable, il y a une espèce de consensus qui commence à s'installer sur l'idée qu'elle est là, l'inflation, et que le retour du risque géopolitique, même le vieillissement de la population et évidemment la transition écologique, ce sont des éléments qui sont inflationnistes, Jean-Marc Daniel.
Oui, je ferai trois corrections par rapport à ce que...
Ah, corrigez-moi, dit. Oui.
Voilà.
Corrigez-moi.
Premier élément.
Oh, il n'aura pas la moyenne, Nicolas.
Non, premier élément, en général, on associe quand même l'inflation à la quantité de monnaie en circulation. Vous ne l'avez pas mis en avant.
Non.
Et donc, la grande question qui se pose, est-ce que la masse monétaire a beaucoup augmenté et est-ce qu'elle continue à augmenter? Alors, on est en général obsédé par l'évolution du bilan des banques centrales. On dit, voilà, ils ont mis énormément de liquidités. En fait, la banque centrale, je rappelle, ne crée pas de monnaie. Et donc, elle a beaucoup transformé de la monnaie qui avait été créée par les banques. Et les banques n'ont pas à créer autant de monnaie qu'on pourrait le penser. Le deuxième facteur, c'est que derrière cet aspect monétaire, il y a effectivement l'aspect demande. Qu'est-ce qui, par la monnaie, on met de la demande à disposition? Qui met de la demande à disposition des gens? En ce moment, c'est plutôt les États au travers des déficits publics. Et donc, un des enjeux, c'est est-ce qu'ils ne vont pas corriger leur politique et budgétaire, sachant qu'un certain nombre de... d'acteurs commencent à dire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, que on ne peut pas vivre éternellement sur le quoi qu'il en coûte. Enfin, dernier élément que je mettrai en avant sur les coûts, qui sont quand même des facteurs aussi de création de l'inflation, il y a encore en termes de main-d'œuvre des réserves de main-d'œuvre considérables à mettre en activité. L'exode rural indien, l'exode rural africain va faire pression sur les salaires. Le salaire mondial, en ce moment, a plutôt tendance à baisser. Et donc, c'est plutôt un facteur de désinflation. Donc, pour en revenir à la définition académique, est-ce que c'est une hausse durable et générale des prix? C'est une hausse qui, à mon avis, n'est pas durable et qui est surtout concentrée sur l'énergie.
Enfin, il y a un moment où le pas durable, 6 mois, c'est pas comme 24
oui,
mois.
Oui, mais enfin, les grandes périodes d'inflation, les années 70, ça avait duré 30 ans. Si on remonte au 16e siècle ou à toutes ces époques-là, ça durait entre 40 et 50 ans, une vraie période d'inflation.
Bah, et tous les éléments que je mettais comme des éléments quand même qui peuvent installer l'inflation sur la durée, que ce soit le vieillissement démographique, la transformation de... écologiques sont quand même des éléments objectivement.
Oui.
Oui, bon. Mais vous voyez, on va s'écharper sur temporaire, pas temporaire, encore pendant des décennies, Jean-Marc. Hein. Je sais pas, Emmanuel Le Chip, par rapport à ce qu'on a dit. Parce qu'il y a la vision de l'économiste high level et puis la vision du gars qui fait ses courses tous les jours et de l'entrepreneur qui doit se livrer en matière première.
Hein. High level et années 70. Hein.
Ah,
parce qu'ils sont un peu vieux, les manuels de Jean-Marc. Non, mais c'est vrai.
Non, je juste fais une correction. Je publie un manuel. J'invite quand même les étudiants à le lire.
Réactualiser.
On va voir quelle est la définition de l'inflation. Non, mais bon, d'accord. Il y a tout ce qui est masse monétaire, etc. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'écume et puis il y a la lame de fond. L'écume, c'est effectivement, vous l'avez dit Nicolas, toute cette inflation qui vient à la fois de la désorganisation des circuits de production et en gros le fait qu'on a arrêté l'économie et qu'on a eu un rattrapage très fort sur à la fois la demande et l'offre et que ça a généré effectivement une désorganisation des circuits de production, c'est une chose. Deux, il y a effectivement en plus la guerre en Ukraine sur certains paramètres. Donc c'est pas étonnant qu'effectivement on se retrouve avec des niveaux de 7-8% d'inflation dans les mois qui viennent. Après,
que personne n'a vu venir quand même.
Après,
objectivement.
Non mais parce que
personne, y compris les banquiers centraux.
Oui, attendez, vous êtes gentil. Quand on parle des erreurs des économistes, il y a deux types d'erreurs. Il y a les erreurs qui relèvent de l'événement imprévisible. Et franchement, ce Covid, c'était quand même quelque chose d'assez peu prévisible. Et puis il y a les erreurs qui relèvent de la faute professionnelle, de l'erreur d'analyse, etc. Là, on peut pas dire que c'est vraiment la faute professionnelle. En revanche, la faute professionnelle, c'est peut-être de pas voir les tendances longues,
c'est ce que je disais,
qu'il y a et qui conduisent, moi, à mon avis, à ce que j'appellerais plutôt une réévaluation des bases de coûts de production de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de postes qui vont être amenés à être plus chers plus longtemps. L'énergie va être durablement plus chère. D'abord parce qu'on est dans un super cycle des matières premières qui résulte d'un sous-investissement massif. Et ça va mettre plusieurs années à se corriger. La transition écologique, vous l'avez dit, elle est inflationniste. Le vieillissement démographique, il est inflationniste. Parce que vous aurez quand même... bien que Jean-Marc effectivement souligne les disponibilités de main-d'œuvre, à terme vous aurez moins de main-d'œuvre et moins d'épargne. Vous
avez moins de rareté sur la main-d'œuvre qu'on observe dès aujourd'hui.
Vous avez moins de concurrence aujourd'hui dans le monde, bien et sûr. Pas seulement dans les secteurs type GAFAM, etc. Et donc, franchement, moi je pense qu'on a là cette bouffée, mais derrière cette bouffée, il faut voir qu'on va sans doute avoir un travail qui va coûter plus cher, une logistique, des coûts de transport qui vont être plus élevés, etc. Et donc, c'est pas ce qu'on peut appeler une inflation au sens où une forte hausse des prix permanente et récurrente, mais il y a ce réajustement qui va être nécessaire. D'ailleurs, il y avait la Banque de France qui avait tracé un chemin avec des hausses de salaire de 3-4% qui n'affectaient pas trop la productivité et la rentabilité des entreprises, et c'était possible.
Mot de la fin, Jean-Marc.
Oui, on voit bien quand même que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui, l'inflation, ça a toujours la même définition. Et Emmanuel vient de nous expliquer qu'en fait, ça ne correspondait pas à cette définition. Donc, j'invite les gens à véritablement s'intéresser à l'économie sur des bases très précises.
La prochaine fois, marqueur numéro 2, ben justement, il y a de l'inflation, donc il y a des hausses de taux.
BFM Business, les chroniques de l'été.
Et on en parlera demain dans Good Morning Business vers 8h50. Fin de cette émission sur RMC Découverte. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 7h à suivre sur l'antenne de BFM Business. Le journal dans un instant avec Claire Sergent.
Rendez-vous demain dès 7h pour une nouvelle matinale d'information économique et internationale.